Est-ce que je me considère comme une trad wife? Mais j'ai déjà dit dans mon article pour la presse. Personnellement, non, mais je trouve pas que c'est une insulte.
Mm-hmm.
Perso, je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes en arrière de ce mot-là. Puis ils m'appartiennent pas tout.
Mm-hmm.
Puis comme tu dis, c'est pas bien non plus de mettre genre le monde dans cette boîte-là parce que je suis beaucoup plus que juste ça.
En fait, c'est qu'on est dans une société qui met plus de valeur à la carrière puis au travail qu'aux enfants.
C'est ça.
Puis en fait, je pense que qu'est-ce qui vient challenger un peu l'idée, c'est que je dis pas que c'est juste les chrétiens qui ont cette idée-là, mais majoritairement, les chrétiens mettent beaucoup de valeur puis de bénédiction sur leurs enfants.
À la famille, ouais.
Alors nous, on se dit plus, ça a justement plus de valeur que je sois à la maison, pour moi, plutôt que j'aille m'investir de mon temps à mon travail, je décide d'investir de mon temps chez moi avec mes enfants.
L'année dernière, j'avais reçu le masculiniste mâle alpha Julien Bournival après son passage à Tout le monde en parle, là où on s'intéressait à ce phénomène de société ou cette mouvance où des hommes décident de retourner vers des valeurs plus traditionnelles, plus genrées, retrouver le rôle du pourvoyeur, plus dans sa virilité. Et ben moi, ça m'intéresse. J'étais curieuse. Il n'y avait pas eu le temps d'aller vraiment au bout de ses idées à Tout le monde en parle, donc j'y avais donné le droit de parole. Et maintenant, bien sûr, il y a le pendant féminin à cette mouvance-là, ce qu'on appelle les trad wives ou les épouses traditionnelles, ces femmes qui décident de rester au foyer, d'être maman, de veiller au foyer, à la famille, plutôt que d'être sur le marché du travail. Et pour une raison qui m'échappe, on identifie souvent ce phénomène de société comme étant une menace ou un recul des droits des femmes, un retour en arrière, pour reprendre les mots de Fanny Arcan dans la presse, quelque chose d'anachronique dans notre société. Alors, j'ai décidé de donner le droit de parole, le droit de réplique à Karina, qui était de passage à Tout le monde en parle, et à Zoé, qui était dans l'article La Presse de Fanny Arcan. Donc, je vous invite à vous faire, vous, votre propre idée, si c'est vraiment une menace pour notre civilisation, un recul de la société. Je vous laisse écouter Zoé Roy et Karina de Blois.
Allô!
Salut!
Merci d'avoir parcouru toute cette route pour venir jusqu'à
ça
moi.
Ça fait plaisir.
Je suis contente de vous avoir. Je vous ai parlé au téléphone les deux. J'ai adoré votre vibe. Puis c'est pour ça que je me suis dit, on va le faire avec vous deux. Fait que là, on se squeeze dans mon studio. c'est la première fois qu'on fait ça à trois. Là. Donc, merci. Les filles, on a parlé beaucoup de vous, ou en tout cas de ce que vous représentez. On va y venir. Mais premièrement, j'ai envie de parler un peu de trad wives parce que c'est le terme qu'on vous a jeté dessus. C'est un peu comme une étiquette qui finit par être une étiquette fourre-tout, comme masculiniste, comme mâle alpha, comme complotiste, comme woke. À un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Est-ce que vous vous identifiez comme des trad wives? Puis parlez-moi un peu de, vous pourrez chacune prendre la parole, mais de votre rôle comme femme dans votre vie au quotidien.
Tu veux commencer?
Fine. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche sur le mot « trad wife » quand Zoé, elle a eu son premier article. Puis, de ce que j'ai retrouvé, c'est des femmes qui veulent plus idéaliser les années 30 à 50, puis qui veulent plus un retour à ces années-là. Je pense que la raison pourquoi c'est autant vaste comme terme, puis qu'il s'est fait facilement appliquer à nous, c'est parce que c'est « trad wife » pour « traditionnel ».
Ouais.
Mais c'est tellement plus que juste l'idée « traditionnelle ». Ça englobe tellement beaucoup, beaucoup plus que ça que moi, je ne m'attache pas du tout à ce terme-là.
Mm-hmm.
Pour moi, je me considère plus comme une femme biblique. Je ne veux pas un retour aux années 30 ou aux années 50. Je veux un retour à c'est quoi que la Bible dit d'une femme. Fait que moi, je me réfère à toute la Bible en général, mais particulièrement à Proverbe 31, où que là, tu sais, c'est un proverbe complètement que sur la femme.
Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le proverbe 31 pour moi, inculte, qui ne le connaît pas?
Fait que le proverbe 31, dans le fond, c'est dans les proverbes de Salomon. Puis, je ne suis pas 100% certaine, mais de mémoire, c'est sa mère qui lui parle pour qu'il trouve une bonne femme. Puis, elle dit en fait qu'est-ce qu'une femme fait et qu'est-ce qu'une femme est. Donc, elle décrit un peu les activités quotidiennes de la femme. Puis, nulle part, elle parle de son ménage ou de ces choses-là. Elle parle que c'est une femme que son mari lui fait pleinement confiance, puis elle voit une terre, elle l'achète, elle en fait une vigne. On voit que c'est une femme qui fabrique des chemises, qui va les vendre au marché, qui va aider les gens, qui est aussi au centre de son foyer. T'sais, elle donne à ses servantes des tâches quotidiennes, elle est là pour ses enfants. On parle que son mari siège au conseil, mais il siège au conseil parce qu'elle est là, en fait.
Mm-hmm.
Fait que t'sais, on voit vraiment que c'est une femme qui a beaucoup de responsabilités, puis que son identité n'est pas juste à l'intérieur de sa maison.
Et de son balai.
C'est ça, ouais.
Puis être entreprenante aussi, mm-hmm. Puis elle ne demande pas la permission avant d'acheter la terre. Ça aussi, je trouve ça.
Ouais. C'est ça que son mari. Ça, c'est dit. Son mari a pleinement confiance en elle, donc elle considère la terre et elle l'achète.
Donc elle peut prendre elle-même ses décisions.
Exact. Fait que moi, quand je lis Proverbe 31, je trouve ça drôle parce que, tu sais, exemple, pour les femmes bibliques qui sont souvent considérées plus comme des trad wife, là, je trouvais ça drôle parce que je l'ai lu sur mes réseaux sociaux. Puis j'étais comme, tu sais, c'est pas juste comme le stéréotype d'une femme traditionnelle, c'est beaucoup plus. Puis je pense que plein de femmes peuvent se reconnaître dans ça. C'est pas juste le modèle exagéré d'une maman qui a plein d'enfants à ses hanches, qui met des robes en coton tout le temps.
Ce qu'on a dit de toi un peu dans l'article.
Fait juste tout le temps du lavage, du ménage, puis qui doit demander à son mari la permission pour tout. Là.
Mm-hmm.
Fait que, mais moi, pour moi, est-ce que je me considère comme une trad wife? Mais j'ai déjà dit dans mon article pour la presse. Personnellement, non, mais je trouve pas que c'est une insulte perso. Je sais qu'il y a beaucoup de stéréotypes en arrière de ce mot-là. Puis ils m'appartiennent pas tout. Puis comme tu as dit, là, c'est pas bien non plus de mettre genre le monde dans cette boîte-là parce que je suis beaucoup plus que juste ça.
Si vous appréciez mon contenu, prenez une petite seconde pour mettre un pouce par en haut, une réaction, un commentaire. Ce genre de choses fait une grosse différence dans l'algorithme et dans le référencement. Aussi, si vous avez envie de m'encourager, vous pouvez aller faire un tour dans ma boutique sur mon site web au www.helloveutsavoir.com/boutique. J'ai mis plein de produits que moi j'utilise dans ma routine pour soutenir ma santé globale, que ce soit le Shilajit, des draps de mise à la terre ou des grounding sheets, ou ce bracelet que je porte présentement qui s'appelle le bracelet de performance CM2 qui aide vraiment énormément à soutenir mon énergie, qui aide beaucoup avec les douleurs chroniques, si vous vous entraînez, si vous avez une blessure, qui aide avec le rétablissement. Vous pouvez aller voir les fiches techniques de tous les produits que j'ai choisi d'offrir dans ma boutique. Et en faisant ça, non seulement vous soutenez mon travail, mais vous décidez aussi de faire un choix pour votre santé globale.
Mais, ouais, non, je me considère pas personnellement comme une trad wife, mais c'est pas un mot qui m'insulte.
Je comprends, t'es
pas insultée. Une femme traditionnelle, tu sais, je trouve pas que c'est un mot insultant. Je pense que c'est la façon que le monde y a fixé le stéréotype dessus.
C'est ça, c'est ça. C'est comme woke qui veut dire éveillé, finalement, qui veut plus vraiment dire woke, mais qui veut dire comme autre chose. Ouais. Je rentrerai pas dans le détail, mais...
Ce que je trouve vraiment intéressant pour les femmes à la maison, en fait, c'est que l'idée de la femme à la maison, comme on la voit aujourd'hui, qui est juste à la maison avec les enfants, à faire son pain, puis tout ça, c'est une idée qui est... Pardon, une idée qui est relativement nouvelle. Parce que si tu regardes vraiment dans le traditionnel, plus nos ancêtres, plus loin que les années 30-50 où il y a eu l'industrialisation, mais tu vois en fait que c'était des gens surtout qui avaient des terres, fait qu'il n'y avait pas des grosses villes et tout ça. Puis oui, la femme était à la maison avec les enfants, mais elle était aussi, ou le potager, elle s'occupait de plusieurs choses, puis elle aidait son mari à aller vendre les biens au marché. Son mari était aussi à la maison, puis était dans le champ un petit peu plus éloigné, dans la forêt, puis les enfants faisaient des va-et-vient entre les deux.
Elle avait une communauté aussi.
Oui.
C'est plus comme...
Mais tu sais, en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire, ceux qui écoutent ça diraient, oui, mais on vit plus dans ce monde-là.
Donc, non, c'est ça.
Donc, il faut s'adapter à 2025, où le monde va vite, où on est vraiment industrialisé, on est maintenant, en plus, avec la révolution de l'intelligence artificielle, le transhumanisme, tout ce monde-là est en grand, grand changement. Donc, est-ce que... On a dit d'ailleurs dans l'article de Fanny, on a utilisé le mot anachronique pour décrire votre mode de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'anachronique selon vous, à vouloir vous attacher à des valeurs qui datent d'une époque qui est complètement révolue?
Moi, je trouve qu'au contraire, c'est encore plus présent parce qu'on le voit aujourd'hui. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis maman à la maison. En fait, l'idée de... le matin, réveiller mes enfants. Puis là, je l'ai fait un matin, puis c'est pas chose facile. Là. Non, je l'ai réveillé pour être à l'heure, les déposer à la garderie, passer ta journée au complet au travail, revenir les chercher à la garderie, faire tout le ménage, toute la bouffe. Là, après ça, tu les couches, t'as très peu de temps avec ton mari. Puis là, après, à la fin de semaine, finalement, enfin, t'as un petit peu plus de temps, mais là, il faut que tu fasses toutes les courses, tout le lavage. Tu sais, la vie va vite. Fait que moi, je trouve que justement, encore plus aujourd'hui, c'est... agréable, puis c'est bon de pouvoir être à la maison parce que ça permet de ralentir. Sinon, on est comme des fous à courir tout partout.
Ouais, c'est vrai, je pense que je dirais la même chose que toi. Je pense qu'on s'imagine qu'être une femme en 2025, c'est d'avoir la carrière, avoir les enfants, avoir tout. T'sais, avoir la vie sociale, la vie amoureuse, la vie de famille, aller s'entraîner, t'sais, avoir... Mais c'est vraiment intense, là. T'sais, moi, je l'ai déjà vécu un peu, là, le mode de vie de travailler les deux puis d'avoir des enfants. Puis Moi, j'ai trouvé, en fait, qu'au contraire, là, ça, c'était très trop intense.
T'étais heureuse d'arrêter puis d'être maman à temps plein.
Pour de vrai, là, même d'un côté féministe, là, de tout mettre ça sur mes épaules. Je trouvais que c'était intense d'avoir une carrière en plus de gérer tout le reste. Là, je trouvais ça...
Mais c'est beaucoup, puis c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai la chance d'être travailleur autonome, je fais mon horaire. Mais malgré tout, on est tellement... Ben, c'est sûr qu'on a des enfants, une petite fille qui va dans une école privée, puis notre autre qui est à la garderie. Puis juste tout faire fitter dans ma journée, je suis à course sans arrêt. Des fois, vraiment, je cours dans la maison parce que je suis vraiment littéralement constamment à course. Puis je me dis, mais les gens qui travaillent 40 heures semaine, en se tapant une heure de trafic le matin puis une heure le soir, comment ils font, honnêtement? C'est sûr que c'est ta vie familiale qui est cop. C'est pas ton travail, parce que ton travail, t'es obligé d'être là pendant toutes les heures, sinon t'es pas payé. Donc, c'est ça, tu vas avoir moins de temps avec tes enfants, tu vas les mettre plus dans des sports en parascolaire, ou finalement, t'es vois jamais, tu sais. Moi, c'est pas ça que je veux comme vie, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. C'est facile pour moi de comprendre, comme vous venez de l'expliquer, parce qu'on est dans un monde très rapide de performance, qu'on puisse avoir envie de faire ce choix-là. Ce que j'observe dans comment on dépeint le mouvement des tradwives, c'est comme si vous étiez des victimes de... comme si vous n'aviez pas vraiment fait ce choix-là, parce qui pourrait faire un choix aussi ridicule que de retourner en arrière comme ça? Donc, on vous a un peu endoctriné à une idéologie qui vous force à faire un choix qui est contre nature pour où on est rendu dans la société progressiste, féministe, où la femme est émancipée, la femme travaille, la femme est indépendante financièrement. C'est toutes des choses qu'on vous a dit sur le plateau. En tout cas, Karina, qu'est-ce que tu réponds à ça?
En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la société aujourd'hui, les femmes ne se rendent même pas compte que c'est un choix qui est possible. On le voit comme quelque chose qui est extrêmement difficile à atteindre, vivre à un seul salaire. Puis là, jusqu'à maintenant, là, moi et mon mari, on avait vraiment pas un haut salaire juste à lui, tu sais. Puis pourtant, on a toujours réussi, puis on vit super bien, on se paye des voyages en Guadeloupe, tu sais. Notre famille habite là-bas, là, on paye pas de Airbnb ou whatever, mais...
mais quand même, payer billet d'avion, c'est déjà cher.
C'est ça, tu sais, fait qu'on vit quand même vraiment relativement bien, tu sais. Sauf que moi, oui, ma mère, tu sais, elle a été maman à la maison, mais en dehors de ma mère, c'est vrai, je l'avais jamais vue. Mais par contre, quand je suis venue à Jésus, puis là, j'ai commencé à rencontrer plusieurs mamans chrétiennes qui vivent pas nécessairement avec des salaires de médecins. Puis je me suis rendue compte, waouh, mais c'est possible en fait. Puis là, moi, j'étais enceinte, puis je l'avais pas considéré jusqu'à ce moment-là, parce que je pensais pas que c'était possible, je pensais pas qu'on allait y arriver financièrement. Puis là, je me suis dit, waouh, c'est possible.
Quel lien avec Jésus? Comment Jésus a joué un rôle dans ce choix-là?
Ben en fait, c'est que ça m'a amenée à prendre contact avec des mamans qui sont chrétiennes.
C'est la communauté,
la finalement. Communauté, exactement.
Qu'il n'y avait pas avant.
Non, non du
tout. T'étais plus isolée dans ton rôle de mère.
Ben j'étais enceinte, fait que j'avais pas encore, mais de ce que je vois même de mes voisines ou des gens qui ont des enfants, c'est vraiment difficile, je trouve, de trouver d'autres mamans avec des champs d'intérêt communs, que vous pouvez faire des choses ensemble. Je trouve que ça a l'air vraiment isolant.
Oui, vraiment.
Mais on le trouve facilement quand dans des soeurs en crise, par exemple. Il y a comme une communauté où c'est quand même facile de créer des liens parce qu'on a déjà ce lien-là.
Ouais.
Puis cet amour-là aussi de s'aimer sans même se connaître. Là. Tu rencontres quelqu'un, puis... Ouais.
Comment... OK, parce que là, on vous parlez de Jésus, c'est un mot qui donne des frissons dans le dos pour beaucoup de gens au Québec. C'est un mot qui fait réagir. J'ai parlé de beaucoup de sujets tabous à ma chaîne, mais je dirais que c'est un des plus grands tabous, c'est de parler du Christ, de Jésus, de Dieu. Juste être invitée à Théovox, ça a créé vraiment comme des gens qui m'attaquaient sur ma chaîne pour me dire que j'avais aucune crédibilité, je m'abaissais à aller à Théovox. Pour moi, ils font un super travail d'actualité à toutes les semaines. Ils ont des très bons chroniqueurs. Puis, tu sais, moi qui parle de Jésus, ben, parle de Jésus, ça fait plaisir. Ça ne change rien dans ma vie. On va parler de la raison pour laquelle tu m'as invité sur ton plateau de tournage. Mais ça fait réagir. Et là, vous êtes là à vous assumer pleinement avec votre foi, alors que vous êtes jeune. Moi, je trouve ça... De un, je trouve ça vraiment fascinant parce que je suis une personne curieuse. Puis, je trouve que c'est un peu atypique. Il y a deux choses. C'est que j'observe depuis peut-être 5 ans un retour quand même assez fort à des valeurs chrétiennes. Je ne sais pas si ça donne que c'est dans mon entourage ou si c'est quand même assez partout. Généralisé. Ouais.
C'est partout.
Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'aller voir Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé?
Pour moi, il y a plusieurs raisons, mais on va parler en général. Là. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une vague parce qu'on a vécu, quoi, je dirais, 40-50 dernières années où il y a comme eu un bris dans la chrétienté, où que ça a comme été enlevé puis détaché complètement de la société. Puis je pense que là, on voit un peu les effets du manque de foi dans la société.
D'avoir jeté le bébé avec l'eau du bain, finalement.
Puis nous, on est comme la deuxième, je dirais peut-être deuxième génération des personnes qui ont vécu un peu sans Christ dans sa vie. Puis on voit un peu qu'est-ce qui se passe autour, puis on réalise qu'il y a quelque chose qui est manquant. Puis pour beaucoup, c'est la foi. Mm-hmm. Puis quand on le retrouve, on réalise comme, hey, c'est ça que je cherchais.
Mm-hmm.
Fait que je pense que c'est quelque chose de commun. Tout le monde est à la recherche de quelque chose parce qu'on n'est plus né avec un peu avoir accès à cette chose-là.
Est-ce que tu étais dans un milieu familial chrétien ou avec
Ma famille voudrait que je dise oui.
OK. Donc, on va dire oui pour ta famille, mais mettons qu'ils écoutent.
Oui, c'est ça. Ben, ils sont catholiques, pas pratiquants.
OK.
Puis, c'est ça.
Mais t'avais été baptisée, t'avais fait ta première communion.
J'ai pas fait ma première communion.
OK.
J'ai été baptisée, on pouvait poser des questions sur Jésus. T'sais, j'avais une petite Bible, là, d'enfant. T'sais, c'est pas comme si c'était quelque chose qui était inexistant.
Ça faisait partie de la culture, mais c'était pas la spiritualité qui était mise de l'avant.
C'est ça. C'était plus la culture puis les traditions que vraiment avoir une foi puis pratiquer là, notre foi. Puis j'ai vraiment, ça fait pas longtemps que j'ai trouvé le Seigneur. Là. Je pense que j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours eu une spiritualité qui n'est pas nécessairement celle de la chrétienté. Mais c'est depuis 2 ans et demi à peu près que je dirais que je suis dans cette marche-là avec le Seigneur.
Tout nouveau.
Oui, c'est tout nouveau.
Mais t'es toute jeune aussi.
Ouais, c'est ça,
dans 24, ça aurait pas pu t'arriver à 2 ans. Mais je veux dire, c'est quand même beau que tu l'assumes. Est-ce que t'as eu quelqu'un qui t'a pris la main, qui t'a invité, ou comment ça s'est fait, cette initiation-là?
En fait, il y a à peu près, les années, c'est un peu flou, là, mais à peu près 4 ans, je travaillais comme préposée avec un homme qui fait partie de notre église maison, parce qu'on fait l'église maison ensemble avec un autre couple. Puis il m'a invité à aller souper chez lui avec mon mari puis mes enfants pour manger puis parler, puis il nous a évangélisés.
Moi, ça sonne comme quelque chose de grave, là!
Non, mais sur le coup,
un exorcisme!
Non, mais sur le coup, tu sais, moi et mon mari, on a tout de suite trouvé qu'il était super gentil. Là. Il était tellement, mais tellement gentil, ces deux personnes-là. Mais il y avait quand même un, comme, tu sais, il aime beaucoup...
Il parlait évangéliser dans le sens qu'il parlait de sa foi ouvertement ou il essayait pas.
Il nous parlait de sa foi, puis il nous a expliqué. Puis nous, on posait des questions, mais on est quand même sortis de là avec... on n'a jamais rencontré du monde autant gentil que ça. Donc, il nous aimait. Puis, tu sais, on les connaissait pas. Il nous aimait. Il était gentil. C'était vraiment beau qu'est-ce qui sortait de cette rencontre-là, mais il y avait quand même un petit... il aime beaucoup Jésus, puis... C'est spécial, un
T'étais
peu.
Un peu déstabilisée quand même.
Oui, c'est ça. Okay. Puis il y a des choses que je dirais que j'étais pas prête à traverser la porte pour croire en Dieu. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Dieu un signe. J'ai demandé à Dieu, si t'existes, fais-moi un signe. Fais-moi un signe concret, puis prouve-moi que t'existes. Puis j'ai eu un signe il y a à peu près 3 ans et demi. Puis dans le fond, j'étais allée dans une banque, là, en gros, puis j'avais des problèmes. Puis il y a une madame qui travaillait là qui m'a dit de rentrer avec elle dans son bureau. Puis elle m'a juste commencé à me dire comme, oh, t'es tellement bénie. En parlant de mes papiers, tout comme t'es tellement bénie, Dieu, il t'aime tellement.
Ouais.
Puis elle m'a sorti un papier où que c'était genre, si t'as de la peine ou genre, si t'as besoin, lis-moi. Puis c'était des paroles de Dieu. Dans le fond, c'était une femme chrétienne. Puis je l'ai pris dans mes mains, puis j'étais en train de me faire parler de Dieu, puis de à quel point qu'il m'aime, puis, puis j'étais là, puis j'étais comme, OK, j'ai demandé un signe, genre, c'était quelques jours.
Ça faisait pas longtemps que t'avais demandé le signe, non, mais c'était pas genre 6 mois plus tard.
Ça m'est jamais arrivé, là. C'est pas comme quelque chose qui était récurrent, c'était la première fois après que j'ai demandé le signe, puis j'étais arrivée chez mes grands-parents, puis je pleurais, puis j'étais comme, Dieu existe, je sais pas quoi dire, tu sais, je suis comme, puis eux, ils comprenaient pas, là, nécessairement. Puis j'ai quand même décidé de refermer la porte, parce que j'étais pas prête, c'est quand même un engagement que je trouvais là, pour moi croire en Dieu. C'était pas juste quelque chose que je voulais prendre à la légère. Fait que j'ai refermé la porte puis j'ai redemandé un deuxième signe au Seigneur du Seigneur, si t'existe, prouve-moi-le, fais-moi un signe. Puis j'étais allée dans un parc puis j'ai rencontré une femme catholique qui nous s'assoit à côté de moi puis elle a juste commencé à me parler de Dieu puis de sa foi puis de... Elle m'a juste parlé puis elle m'a dit les mots exacts que j'avais besoin d'entendre pour faire un déclic à l'intérieur de moi puis d'être prêt à traverser la porte. Puis j'ai décidé de traverser la porte, elle nous a invité à son église, puis moi et mon mari, on a commencé à aller à tous les dimanches, puis veut pas, tranquillement, pas vite, on a eu des rencontres avec le prêtre, il nous a fait des cours de théologie pour venir un peu appuyer le côté rationnel de croire en Dieu, puis notre foi a commencé de même, c'était comme à travers des signes vraiment concrets, puis la deuxième fois qu'il m'a fait un signe, j'ai fait non, le Seigneur me veut, puis je peux pas lui reclaquer la porte d'en face, j'ai décidé de passer en sachant que j'allais devoir mourir à moi-même, là.
Puis toi, Karina, c'était quoi cette démarche avec Dieu? Est-ce que t'es née dans une famille croyante?
Non, en fait, ils m'ont baptisée catholique quand j'étais bébé, mais je pense qu'ils l'ont plus fait juste parce que c'est beau. C'est cute.
Faisait des belles photos.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, peut-être qu'il y avait plus derrière, mais...
Sans... Ben, pour toi, en tout cas, t'as pas été élevée dans cette
non,
tradition.
Non, du tout. Tu sais, on n'en a pas vraiment reparlé après.
OK.
En fait, quand j'ai gradué du cégep, moi, puis c'était mon copain à ce moment-là, moi puis mon copain, on a déménagé jusqu'à Calgary, ensemble. Puis, on n'avait pas une bonne relation. Comme, c'était correct, là, mais quand on est rendu là-bas, c'était encore plus intense. Ça a mis encore plus ça en valeur qu'on habitait ensemble. Puis lui, en fait, il avait vraiment beaucoup de up and down, comme j'ai dit à l'émission, là. Mais vraiment intense.
OK, OK. Puis là, genre j'avais bipolaire comme, intense?
Non, mais tu sais, pas bipolaire. Il n'y a aucun diagnostic ni rien, mais... Pas commun.
OK. Disons, comme ça. Ça sortait d'ordinaire. D'accord.
Ouais, c'est ça. Assez pour que je le remarque vraiment rapidement, puis drastiquement. Là. Puis, à un moment donné, ça faisait comme presque un an qu'on habitait ensemble, puis ça a disparu tout d'un coup. Il n'y avait absolument plus rien. J'arrivais du travail, il était joyeux, il a perdu sa job, il était joyeux.
Ah, oh, mon Dieu.
J'étais genre, OK.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Puis la seule chose qui avait changé, c'est qu'il me parlait de Jésus, puis il lisait la Bible devant moi.
Pourquoi il s'est mis à lire la Bible? Il y a eu un appel?
Ouais, ben dans le fond, lui tout un témoignage derrière, en fait. Lui, par contre, il a vécu dans une famille catholique, il l'a amené à la messe et tout ça, mais c'était rien de vécu, rien de profond, rien de relationnel. Puis, il est venu à vivre quand même quelque chose d'assez drastique dans sa vie, puis que moi, j'étais pas au courant à ce moment-là, c'était plus par en dessous. Fait qu'il a envoyé un appel à l'aide à Jésus dans sa douche, pour pas que je l'entende.
Wow.
Puis après, ben c'est là que lui, il a senti l'aide de Jésus vraiment, puis les forces qu'il lui a données. Puis après, il s'est mis à lire la Bible, puis toute la sagesse qu'il y avait là-dedans, il a comme commencé à avoir accès à ça, fait que c'est venu vraiment changer. Puis moi, j'ai juste été témoin de ce changement-là. Je me suis dit, il y a quelque chose de vrai. Fait que quand je me rendais au travail, je priais pour ma journée. Puis là, j'étais en probation, puis je recevais des promotions, puis j'étais comme « wow, OK ». Puis quand je revenais du travail, je priais pour ma famille, puis j'avais des appels de ma famille, puis des pardons se faisaient, puis c'était juste vraiment beau puis touchant, mais rien assez pour que j'embarque. Puis là, à un moment donné, on est venu à une conversation, moi, puis c'était encore mon copain, là, juste à se dire comme toute la vérité sur notre relation, puis tout ce qui s'était dit, les blessures qui s'étaient faites, puis j'étais en larmes. Dans le salon, mon cœur était en mille miettes à terre effondré. Lui, il était plus capable de me voir, il est parti dans la chambre. Puis j'ai dit, OK, Seigneur, c'est soit tu me donnes la force de pardonner, mais un vrai pardon. Pas un pardon que je vais revenir le piquer dessus plus tard, là. Un vrai de vrai, où tu n'existes pas, puis je m'en vais, puis je continue ma vie. Moi, j'étudiais en business, puis j'étais comme, je vais aller faire mes business, là. Puis j'ai vraiment senti le pardon de Dieu, là. Puis je sentais mon cœur revenir tout en morceaux, sans cicatrices, sans rien. J'ai été dans la chambre, j'ai été le voir, puis j'ai dit, je te pardonne.
Wow.
Puis là, on s'est dit, OK, maintenant qu'il est vrai, là, faut qu'on fasse quelque chose. Puis c'est là qu'on s'est fiancés, puis on s'est mariés pas longtemps après.
Donc, il y a comme un lien direct avec le mariage, puis votre foi. C'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, c'est quand on parle des tradwives, ou en tout cas, quand on décrit ce que vous vivez, on peut pas parler juste de femmes qui ont choisi d'être mères au foyer.
Ouais.
Votre foi est au centre de votre vie.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, là, tu dis tout de suite, après, on s'est mariés. Donc, vous avez comme senti aussi que votre union, c'était vrai, là.
Ouais.
Ça a transformé votre relation aussi.
Vraiment.
Puis est-ce que... Ça fait combien de temps que t'étais avec?
Depuis 2019, ça fait 6 ans.
OK, d'accord. Puis maintenant, vous avez des enfants ensemble?
Oui.
Vous en avez deux?
Deux.
OK, félicitations. Est-ce que vous en avez un autre bientôt qui s'en vient?
On veut.
Ah ouais, OK. D'accord. En plus, t'es doula, fait que c'est vraiment la maman. Comment t'es devenue doula? Parce que finalement, ça a pris une place dans ta vie, être mère.
Oui, ben en fait... Ben tu sais, en même temps, pour revenir un petit peu à tantôt, tu sais, quand j'ai rencontré les mamans chrétiennes à la maison et tout... Là, j'ai comme fait « Hey, moi aussi, tu sais, j'ai peut-être que je pourrais le considérer. » Puis quand j'ai accouché, j'étais comme « Wow, je peux pas laisser ce petit être-là à la garderie. Je veux tout le temps avec moi. » Puis là, quand j'ai dit ça à mon mari, il a dit « Ben, on va juste trouver comment. » Lui, c'est un gars de solution. Puis
on va le faire fonctionner, finalement. C'est ça. Mais tu sais, il y a quelque chose de louable d'en vouloir être à temps plein avec son bébé. Moi, je trouve ça extraordinaire de le faire. Moi, honnêtement, je ne serais pas capable d'être constamment avec mes enfants. Puis j'ai dû être confrontée aussi à ça parce que je me disais, tu sais, je vais faire l'école à la maison. Et puis j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne. Puis j'ai reçu Léa Couture ici, pour ceux qui me suivent, qui ont une conversation extraordinaire. C'est une femme qui prône le free birth. Elle a accouché seule chez elle à la maison. Puis... son témoignage m'a vraiment percutée parce que ça m'a fait réaliser à quel point, finalement, je m'étais pas je m'étais pas fait confiance dans ma capacité d'être femme forte, dans ma capacité à créer la vie enfantée, puis on s'en remet à l'hôpital, puis on se dit, ben ok, donnez-moi une péridurale, puis c'est pas vrai, je me suis pas posé de questions, je me pose plein de questions dans la vie, mais on dirait qu'on nous enlève un peu notre pouvoir de décider. Puis Léa, avant de partir de chez nous, elle m'a dit, sa fille a le même âge que ma fille, puis elle dit, moi j'ai décidé de l'inscrire au privé, parce qu'elle dit, je peux, si je suis à temps plein avec ma fille, je vais me tirer une balle. Puis j'ai fait, c'est vrai, mon projet d'Hello veut savoir prend tellement de place dans ma vie, puis tu sais, c'est important pour moi d'avoir cet équilibre-là, mais tu sais, justement, c'est pas, il y a pas une bonne façon de faire, puis les autres sont mauvaises, en tout cas, je ressens pas que c'est comme ça, vous, c'est vos choix, j'entends pas que vous les imposez aux autres.
Non, puis tu sais, moi, j'ai pas le même mode de vie que Karina, là, moi, mes enfants, ils vont à la garderie à temps partiel, puis ma fille, elle va à l'école privée chrétienne.
OK.
Fait que, ouais, moi aussi, là, genre, j'ai quand même eu 3 enfants à 4 ans et demi. Puis mes postpartum, c'est pas... Ouais, c'est ça. Je suis tombée enceinte.
T'as voulu ou...
Oui. Ben, la première, c'était une surprise.
OK.
C'était un cadeau.
T'avais quel âge?
J'avais 17 ans, puis j'allais avoir 18.
C'est... Wow!
Puis je l'ai eu à 18.
À cet âge-là. Ouais. Wow, bravo.
Puis quand on s'est comme fait propulser dans la parentalité. Puis une fois dans la parentalité, on a aimé ça. Fait qu'on a décidé de continuer notre famille. Mais là, après 3 enfants, 4 ans et demi, je sais qu'il y en a qui en ont plus en moins de temps, puis tout, mais il y a quand même grossesse, chute d'hormones. Puis j'ai genre fait, OK, non, j'ai besoin d'une pause. Mm-hmm. J'ai besoin d'une pause. Puis je me suis jamais retrouvée en tant qu'adulte ou en tant que mère à pouvoir nécessairement, je dirais, avoir un moment comme pour moi, comme vraiment pour moi. Fait que ce que j'ai fait, ben c'est là, mes enfants vont à la garderie à temps partiel, puis je suis en train de rééquilibrer un peu tout ça, là, notre... Idéalement, comme ça, je le pense sincèrement, je pense qu'un enfant devrait être avec ses parents, surtout avant l'école. Mais, tu sais, je pense que c'est circonstanciel aussi. Tu sais, comme moi, dans le cas où j'étais, les avoir à temps plein, c'était pas nécessairement la meilleure chose pour moi, même pour eux, je dirais, là, à ce moment-là, parce que j'ai pas des postpartums qui sont nécessairement faciles.
Puis c'était pas disponible pour eux, finalement.
T'sais, non, c'est mieux ça.
Avec des amis.
Tu sais, je préfère les envoyer deux, trois jours, au pire, par semaine. Puis les journées que je les garde, c'est vraiment comme pour faire des activités, aller au partager avec eux, oui, c'est comme passer du temps avec eux que de les garder tout le temps puis d'être trouver ça plus difficile.
Ouais. C'est ça. Puis il y a aussi ça, c'est une réalité. Ouais. Tu sais, chaque femme n'est pas pareille. Il y a des femmes qui ont cet appel-là d'être à temps plein avec leurs enfants. Mais il y a aussi des enfants qui n'ont pas forcément... Tu sais, moi, je regarde le tempérament de ma fille, ça n'aurait pas été possible. Et premièrement, elle est très autonome, très... Tu sais, elle est contente de voir des amis, elle est contente, puis mon petit garçon aussi. Tu sais, j'aurais pas pu lui offrir ça si on avait été seule, à moins que j'aie, comme vous avez la chance d'avoir une communauté. Ouais. On n'a pas forcément cette communauté-là de parents. Fait que je me dis, ben tu sais, on a l'équilibre. Quand on est avec nos enfants, on est vraiment hyper présent avec eux. Mais quand ils sont pas là, mais je sais qu'ils ont une vie sociale. Puis tu sais, ils sont très heureux, je pointe là, parce que notre garderie, c'est notre voisine d'en face. On est super chanceux en plus.
Je pense que c'est des chapitres aussi, là, présentement. Ouais. Là, c'est pour nous. Moi et mon mari, c'est un chapitre où que les enfants vont à l'école puis la garderie, mais c'est pas quelque chose, on se met pas une étiquette, on se met pas comme... Fait que c'est ça.
Tu vois comme ça vient finalement.
C'est ça, puis pour l'instant c'est une bonne chose parce que là ça la donne que le Seigneur a répondu à ma prière, puis j'ai beaucoup d'occasions d'évangéliser, là, que ça soit du monde qui vienne me contacter en privé pour me poser des questions, me rencontrer pour que je leur parle du Seigneur. Fait que
c'est important pour toi d'évangéliser?
C'est pas... je pense qu'on a tous des dons différents dans la chrétienté. Puis je suis quelqu'un qui a de la facilité quand même à parler, puis à venir avoir des conversations avec le monde, puis à travers mes réseaux sociaux. C'était pas pour ça que je les ai faits, mais à travers mes réseaux sociaux, veut pas, le fait que j'ai montré ma personnalité, le fait que j'ai montré que j'étais gentille, le monde a trouvé que j'étais approchable. Il y a certaines personnes qui en ont profité pour venir me texter ou me demander de me rencontrer. Puis pour moi, c'est des belles occasions parce que c'est à travers des personnes que j'ai aussi été vers le Seigneur. Je ne vais pas dans l'imposition de « OK, mon but, c'est de tout le monde que je rencontre devienne chrétien », mais plus de « Seigneur, fais en sorte que je puisse être pour toi une porte d'entrée pour eux ». Puis si jamais ils ont une question ou ils ont besoin de quelqu'un pour les suivre, mais ça peut être moi parce que...
Tu vas être au service finalement de...
Je vais juste être au service du Seigneur. Puis pour le moment, c'est quelque chose qui se passe. Dans...
Je pense que c'est un mot, tu sais, qui a beaucoup de sous-entendu pour les gens, peut-être qu'ils le comprennent moins, mais dans le fond, c'est se rendre disponible aux besoins des gens.
Évangéliser.
Aussi, tu sais.
C'est ce que ça veut dire.
Ben, tu sais, il y a plusieurs formes d'évangélisation, mais ce que Zoé partage là, je pense plus que c'est à travers ses réseaux sociaux puis le fait qu'elle a un peu plus de temps en ce moment, mm-hmm. les gens qui la contactent, ils ont des besoins, puis elle est capable d'aller leur parler, puis de les aider, puis mm-hmm. d'avoir des discussions avec eux, que autrement ces gens-là resteraient avec leurs questions, puis
il n'y
aurait pas de réponse.
Si on peut donner de plein de façons, ça peut même être en faisant du bénévolat ou à travers notre générosité, c'est pas nécessairement en évangélisant bibliquement, mais juste le fait... Des fois, j'ai réalisé que la meilleure façon d'évangéliser, maintenant que ça fait 2 ans et demi que je suis chrétienne, c'est vraiment à travers l'amour. Mm. C'est vraiment à travers l'amour que le monde peut... En tout cas, ils ont une ouverture de poser la question.
C'est un langage universel, puis c'est pas, ils ne sont pas jugés ou menacés dans ce que tu as à offrir, finalement. Ouais. J'aimerais ça qu'on écoute un extrait de Tout le monde en parle. Mon but en vous invitant, bon, c'est sûr, Zoé, t'étais pas à Tout le monde en parle, cependant, t'avais été invitée. Karina, c'est toi qui étais là. Il y a Sacha qui était à vos côtés aussi. Sacha qui m'a contactée sur Internet. Elle habite en Caroline du Nord. Alors, elle a pas pu venir, mais ça m'a fait plaisir de l'avoir. Mais j'aurais, ce que je voulais, c'est que, ben, comme c'est le cas, bon, on s'entend, c'est un segment de 21 minutes, c'est très court, il y a 5 personnes qui ont pris la parole, plus l'animateur, donc ça fait pas beaucoup de temps d'antenne, alors que c'est un sujet qui est quand même très complexe. J'aimerais ça qu'on se donne la peine d'écouter certains extraits, puis qu'on puisse y répondre après, aller plus en profondeur. On va écouter Fanny Arcan, la journaliste qui avait fait l'article sur toi, puis elle a fait un article, finalement plusieurs articles que je comprends dans la presse. Si tu veux, on va écouter un extrait.
Être surtout dans la maison.
Il y en a juste aux États-Unis, à quel point c'est répandu au Québec et au Canada?
Oh, mais au Québec, c'est dur à savoir. Les derniers chiffres qu'on a par rapport à la religion, par exemple, ça remonte au dernier recensement, en 2021. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, ce qu'on constatait, c'est que les jeunes, la religion était en baisse là, chez ce groupe-là. Puis la religion est souvent partie importante du cheminement des épouses traditionnelles. Niveau conservatisme, ben, les jeunes femmes sont en moyenne plus progressistes, ont tendance à porter des idées conspirationnistes, selon les études. Mais ça, c'est encore des études qui remontent à 2021, 2019, qui sont des chiffres, mais dans les dernières années, ça a vraiment pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Donc, sur le terrain, ce qu'on constate, par contre, c'est que de plus en plus d'élèves ont des propos masculinistes, tout genre confondu. Donc, ça reste à voir. Puis tous les chercheurs auxquels j'ai parlé me disent qu'on est un peu en attente à savoir ce que ça va donner concrètement.
Sacha,
OK, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dedans. Bon, premièrement, faire un parallèle entre les conservateurs et les complotistes, j'avoue, ne pas... je pense qu'elle dit conspirationniste. Bon, c'est pas la même, c'est la même affaire, mais c'est pas grave, on va dire les bons mots. Je ne comprends pas du tout de quoi on parle ici. Je pensais pas que vous étiez invité pour parler de conspiration, mais est-ce que vous comprenez le lien qu'elle a fait? Est-ce que tu as compris quand tu as dit ça, de quoi on parle?
Mais je pense que c'est surtout dans l'idée que les gens qui sont plus traditionnels comme nous ont moins tendance à faire confiance au gouvernement.
OK, donc ça on peut aller ensemble.
Plus les idées du gouvernement.
Le système,
c'est ça, ou juste qu'est-ce qui est en place dans la société. Fait que je pense que c'est un peu cette idée-là de conspiration, mais t'sais, en dehors de ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup de mots.
Beaucoup d'amalgame, en fait, parce que vous étiez pas là pour parler. C'est comme si on sait tous qu'être conspirationniste, en tout cas, selon Radio-Canada, c'est l'équivalent d'être nazi ou un suprémaciste blanc. Donc, c'est extrêmement méchant comme étiquette. Fait que là, t'sais, déjà, on fait des amalgames qui sont... Puis en plus, qui selon moi, n'ont pas lieu d'être, mais là, on dit que selon des chercheurs ou selon des experts, fait que là, c'est comme, ah ben là, c'est des experts le disent. Pour moi, c'est ça le problème avec les biais dans nos médias traditionnels, puis c'est ce que je dénonce depuis 5 ans sur ma chaîne, c'est ce qui fait qu'on leur fait plus confiance parce qu'on voit à quel point c'est une supercherie, ça n'a pas de sens de dire des affaires de même. Ouais,
juste si tu regardes mon titre là, dans la presse, c'est genre, jeune femme, tradwife, chrétienne... conservatrice traditionnelle, genre de quoi de même, je pense?
C'était l'autre onglet, si tu sors de ton mode plein écran. Non, le retour à la tradition, le premier onglet, pas lui, l'autre à côté, à gauche. Les tradwives ou l'appel de la féminité traditionnelle.
Ouais. Ben, dans le fond, je pense que c'est facile pour eux de s'imaginer que, ben, tu sais, de mélanger la chrétienté avec la politique. Fait conservateur, droite, gauche et tout. Ouais. Je pense que automatiquement sur certains points, quand on est chrétien, on est déjà plus automatiquement mis...
conservateur.
Oui, parce que, tu sais, on est plus comme famille. Il y a comme plusieurs choses, mais il y a tellement de choses à la chrétienté aussi qui pourraient être que la gauche approprie, là, genre comme
de gauche.
Tout ce qui est communautaire, tout ce qui est... bénévolat, tout ce qui est... C'est ça, c'est toutes des choses que les chrétiens aussi, on porte à cœur. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est qu'on, dans le fond, on est un peu des deux côtés, mm-hmm. mais on est souvent étampé
De droite.
Oui.
Oui, je comprends. Cet article-là, quand il est paru, comment t'as réagi? Parce que là, on l'a sous les yeux, dans l'ensemble.
Ben, écoute, je m'attendais à pire. Oui. Ben, quand je l'ai lu, pour le reste, je savais pas que le monde écoutait encore les médias québécois. Là.
Genre... De temps en temps, on voit un article passer pour on sent le besoin oui, de le partager.
Oui, c'est ça. Mais c'est pas... je pensais pas que ça allait être de quoi qui allait devenir autant gros, perso. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, OK, ça aurait pu vraiment être pire. Puis okay. elle a été quand même honnête dans... Tu sais, il y a des choses qui manquaient de contexte, mais elle a pas été malhonnête. Fait que ça, j'ai apprécié. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a des choses qui étaient alarmistes. Puis il y a aussi... Moi, une autre chose que j'ai pas compris, c'est... Les liens entre moi, ou en tout cas, le monde que je représente, puis les experts. Ça, j'ai pas compris, là. T'sais, il y en a des experts pour parler de mouvement nataliste de bébés blancs. Puis là, j'étais comme, hey, OK, ça sort de nowhere dans mon... Ouais, dans l'article qui parle de moi, tu sais.
Puis on finit avec Léa Clermont-Dion, qui ouais, comme elle... plein de biais idéologiques. Pour finalement comme parler du fait que vous faites un peu reculer le droit des femmes. T'sais, elle est là pour défendre les féministes, les luttes des féministes, puis vous, ben vous êtes vraiment un problème dans notre société parce que vous voulez ramener toutes les femmes à la maison. Est-ce que c'est votre but, les filles?
Moi, j'ai des amis qui ont un travail, j'ai des amis que leurs enfants vont à la garderie, j'ai des amis qui sont chrétiennes, j'ai des amis qui sont pas chrétiennes. Mmh. J'essaie pas de ramener tout le monde à faire la même chose que moi, mais j'essaie de... Quand je trouve des mamans que je vois qu'eux, ils sont comme « Ah, j'aimerais ça être maman à la maison, mais je sais pas comment faire, je pense pas que c'est possible vivre avec juste un salaire dans notre société, ce qui est comme tout le temps en train de se faire dire, mm-hmm. ben là, j'embarque, puis je dis « Mais oui, c'est possible, tu sais, ouais. j'ai réussi à le faire, puis je peux t'aider, je suis là, comme on va jaser. »
Ouais, finalement, tu vas aider ceux que ça intéresse.
C'est
ouais.
ça, tu sais.
T'es pas en train de... Ben, c'est ça, c'est aussi comme... on peut... je remettrai peut-être l'autre extrait suivant, si t'es capable de le placer.
Oui, c'est pas nécessairement d'apprendre d'avoir la meilleure note. Comme tout le système est un peu bâti sur une prémisse un peu fausse.
Mais qu'est-ce que tu reproches à l'école? Qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants dans les écoles aux États-Unis avec lesquelles tu n'es pas d'accord?
On enseignerait toutes sortes de choses qui sont contre mes valeurs, dans le sens que moi, mon désir pour mes enfants, c'est qu'ils apprennent les fondements du christianisme. Qu'ils apprennent l'amour, la compassion.
Ouais, c'était pas cet extrait-là que je voulais, c'était l'autre d'après. Parce que, ben en fait, c'est que lui, vu que Sacha n'est pas là pour répondre, on pourrait quand même répondre.
Je pense que parler avec Sacha, fait que je peux dire ma réponse, puis aussi. Ben en fait, ça se rejoint énormément, là.
Oui, ben vas-y
donc. Donc, en fait, moi, pourquoi j'ai fait. Ben, j'ai fait. Ma fille est en pré-maternelle, là, si on peut dire. Là, j'ai commencé légèrement avec elle. Puis, ben, il y a plusieurs raisons. Là,
tu veux faire l'école à la maison?
Oui, je veux faire l'école à la maison.
Okay.
La première raison, en fait, puis on en a parlé un petit peu avec les conspirations, là, c'est que je veux que ma fille puisse questionner la société ou les choses que le gouvernement met en place. Puis je veux pas juste qu'elle fasse partie d'un mouvement puis qu'elle continue comme ça.
Mm-hmm.
Je veux qu'elle soit capable de se remettre en question. Puis ça, c'est pas à l'école qu'on l'enseigne.
Mm-hmm.
À l'école, on t'enseigne à lever la main avant de parler. On t'enseigne à être de même avec tout le monde, assis à ton pupitre puis à juste...
Marcher dans les rangs.
C'est ça. À prendre ce qu'on dit puis à le rejeter. Moi, je veux qu'elle apprenne réellement les choses, puis que ça soit important pour eux, puis pas juste pour passer un examen.
C'est intéressant parce que ce que tu décris, c'est ce que les grands penseurs grecs faisaient, c'est ce que les philosophes font, c'est ce qu'on a fait à travers les âges, qu'on a vraiment valorisé. Fut une époque où c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Même la philosophie bouddhiste tibétaine met de l'avant ce genre de remettre tous les écrits en question, raisonner, affûter votre esprit critique. Mm-hmm. Puis maintenant, ben faire vos recherches est considéré comme complotiste, puis t'es un cave si tu fais ça. Alors que je sais pas qu'est-ce que tu fais si t'es au bac ou même au doctorat, il faut que tu fasses tes recherches. Parce que là, je sais pas si c'est complotiste de faire tes recherches quand tu fais un doctorat. Peut-être que c'est correct quand t'es dans le cadre scolaire, mais... Fait que finalement, tu sais, c'est comme si on a démonisé l'esprit critique et puis on amène vraiment les gens à adhérer au discours ambiant, qui n'est pas forcément toujours un discours qui est aligné avec nos valeurs. Visiblement, Sacha ne voulait pas répondre par rapport à la question de l'idéologie trans qui est enseignée de plus en plus dans des écoles où on voit de plus en plus de profs queer ou qui, tu sais, qui vont dire qu'un garçon, c'est pas forcément parce qu'il a un pénis qui est un petit garçon, puis il peut se sentir comme une fille. Ou... Tu sais, moi, si quelqu'un dit ça à ma fille, je ne réponds pas de mes actes. Je vais être vraiment la première à débarquer à l'école pour dire on va avoir une petite discussion. Là. Parce que pour moi, Puis je pense qu'on est vraiment, vraiment plus nombreux qui osent le dire. On est certainement une forte majorité. L'école devrait être libre de toute idéologie. L'école est là pour enseigner le français, les maths, c'est des notions importantes de respect entre amis à l'école, mais elle n'est pas là pour enseigner des idéologies. Puis tes valeurs à toi, c'est aux parents de les inculquer à tes enfants. Puis l'enfant gérera ce qu'il a géré plus tard si finalement il décide de se rebeller contre la façon chrétienne que vous l'avez élevé. Il va vivre sa vie. Mais c'est pas à l'école d'y donner des idéologies qui sont pas forcément ancrées dans la science. Ils disent que oui, mais ça fait pas l'unanimité. L'idéologie, je vais juste comme faire mon petit topo, puis après je vous laisse parler, mais il y a deux idéologies qui pour moi posent vraiment problème dans le système éducatif en ce moment. L'idéologie queer qui englobe l'idéologie trans, c'est-à-dire que le genre serait finalement non-binaire, mais serait sur un spectre. Et l'autre idéologie, c'est que l'enfant naît sexualisé, donc avec une sexualité qu'on doit lui enseigner sa sexualité dès le plus jeune âge. C'est prôné par les instances internationales comme l'OMS, l'ONU, tous nos programmes à nous sont faits sur ces instances internationales-là, qui ne sont pas du tout indépendantes, qui ont des conflits d'intérêts, qui ont des gros lobbies qui militent dans cette optique-là. Bon, bref, j'en ai parlé souvent sur ma chaîne. J'ai fait une conférence là-dessus cet été. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que, justement, je pense que vous avez tout à fait droit de retirer vos enfants du système scolaire qui est défectueux puis de dire, ben moi, je vais essayer de faire quelque chose de plus beau. Puis je comprends, tu sais, je vois que Guillaume Lepage essayait vraiment, et trois fois qu'il a posé la question.
Il voulait vraiment qu'elle dise.
Puis elle l'a pas dit. Il a fini par se replier sur envoyer.
Mais c'est quand même dangereux de dire ces mots-là. Hein.
Ben, surtout à Radio-Canada.
Oui, très dangereux.
Très, très dangereux. Elle aurait pu se faire trancher la tête. Mais finalement, c'est Cœur de Pirate qui a répondu, puis on va pouvoir mettre la réponse de Cœur de Pirate qui était absolument éloquente. Beaucoup, beaucoup de préjugés.
Mais moi, j'aurais pu ajouter pourquoi j'ai enlevé ma fille de...
Ah oui, absolument.
OK. Moi, en gros, là, pour revenir un peu à ce qu'on disait, là, ma fille, elle allait à l'école publique et elle est en maternelle. Puis en maternelle, on peut retirer nos enfants du cours de sexualité. Puis on peut aussi les enlever de l'école pas mal n'importe quand. Là. Il n'y avait pas de comme « Ah, elle doit venir 5 jours semaine ».
Ah, OK.
À l'école, vu que ma fille, elle allait à l'école publique. Et en première année, c'est différent. C'est obligatoire.
Parce que c'est un service de garde la maternelle, encore aux yeux du gouvernement, alors qu'à partir de la première année, il y a un cursus scolaire.
Puis pour moi, pour mon mari, on l'a retiré. Elle a fait quelques jours de première année, puis on l'a retiré, puis on l'a envoyé à l'école chrétienne, parce que pour nous, c'est important, pour une multitude de raisons, qu'elle soit élevée, puis qu'elle grandisse dans la foi chrétienne. Mm-hmm. Et on sentait que même si c'est beaucoup poussé que l'école publique est laïque, elle n'est pas à 100%, parce que l'idéologie de, on va dire, on peut appeler ça woke, de gauche, on peut mettre une étiquette sur ça, là, peu importe, cette idéologie-là est devenue presque une religion.
Ouais, puis vraiment.
Maintenant, c'est rentré dans l'école, fait qu'on comprend pas nécessairement pourquoi que l'idéologie de religion, en général, doit être enlevée, alors qu'une autre vient. Comme tu as bien dit, nous, on s'attendait à ce qu'elle aille apprendre le français, les maths, l'anglais, etc., et on n'a pas ressenti ça. Fait que pour nous, des parents chrétiens, on ne sentait pas comme si on envoyait notre enfant à une école laïque pour apprendre les choses de base, mais apprendre aussi beaucoup plus que ça. Puis on a décidé de l'enlever.
De toute façon, à voir comment les jeunes ont de la difficulté à écrire leur français, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur les vraies choses, puis sur comme LGBTQ2A, en dessous, 2+. Mais c'est super important ce que tu dis. Puis tu sais, je pense qu'on va pouvoir envoyer. Est-ce que tu étais prêt?
Oui.
Allons voir la réponse de Cœur de Pirate.
Vous réagissez comment?
Ben, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, ce qui m'inquiète juste de ce... Pas vous nécessairement, je vous connais pas personnellement, mais il y a vraiment une montée sur les réseaux sociaux d'un mouvement, justement, des tradwives, tout ça, qu'une personne plus jeune peut tomber là-dedans facilement. Il y a des reportages qui ont été faits là-dessus, sur le rabbit hole, que dès que tu tombes... De la même façon qu'un jeune garçon peut tomber dans le masculinisme, c'est quelque chose de très vrai. Il y a un renouveau du christianisme sur les réseaux sociaux aussi, qui est, ma foi, très présent, qui est une façon pour vous aussi, ceux qui sont chrétiens, de promouvoir la bonne nouvelle, j'imagine. Puis c'est vrai que quand tu tombes là-dedans, tu peux vite te faire aspirer si t'es jeune, puis que t'as pas les outils nécessaires pour la pensée critique, je crois, nécessairement. Mais ça n'enlève pas que vous vivez votre vie comme vous voulez, puis peut-être que vous voyez ma vie, puis vous êtes comme, oh mon Dieu, non, jamais. C'est correct.
OK. Wow! Moi, j'en reviens pas pour vrai. Comment t'as réagi sur le plateau quand t'as entendu ça?
J'aurais vraiment aimé avoir la chance de parler plus, mais bon, c'était un court temps, comme tu disais tout à l'heure. Mais en fait, c'est surtout que je me suis dit, mais en fait, ils n'ont pas du tout écouté ce que je venais de dire. Parce que je venais de parler de la femme entrepreneur de Proverbe 31. Donc, comment elle peut dire que... parce qu'elle a dit, ah, si vous regardez ma vie, mais en fait, ce qu'elle voulait dire là, c'est par rapport au fait qu'elle elle est travailleur autonome, elle a sa
propre... Ouais, puis elle a sa business, elle est entrepreneur.
C'est ça, elle a sa propre business et tout ça. Fait qu'elle était comme, ah, tu sais, clairement, vous voulez pas, vous voulez être juste maman à la maison, avec un gros juste maman à la maison.
Ouais, vous rejetez tout comment une femme dans toute sa complexité pourrait choisir de vivre sa vie.
Finalement. Exactement. Puis je me suis dit aussi, mais c'est exactement pour ça, c'est que je veux faire l'école à la maison. J'aurais aimé pouvoir lui dire, mais tu sais, c'est justement parce que, en fait, quand t'es sur les bancs d'école, eux, la mentalité, c'est qu'ils veulent t'amener à être un travailleur. Ils veulent t'amener à pas réfléchir, à faire ton 9 à 5, à faire ce qui t'a été demandé de faire, en fait. Donc oui, moi, je veux aller contre ça. Je veux qu'on puisse questionner ça. Puis c'est quoi le mal si une jeune fille qui est maman, qui a envie d'être à la maison? C'est quoi le mal que derrière ça, qu'on puisse être ouvert, discuter, avoir des échanges? En fait, c'est justement ça qui est bon, c'est justement de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, partager les opinions, puis venir challenger un peu les idées.
Ouais.
C'est pas juste en restant cloîtré, puis c'est justement ça le problème des algorithmes, des réseaux sociaux, c'est que tu vois que la même chose constamment, puis je pense que c'est Mme Ouimet qui en a parlé un petit peu, qu'elle a dit qu'elle se sentait sur une autre planète, mais moi, ça vient me montrer justement que ben, t'es sur une autre planète parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu t'entoures, c'est la même chose.
Ouais. Puis quand t'as pas conscience que ce monde-là existe.
C'est ça qu'on vient à son...
donne l'impression d'être juste sur ta planète parce que t'es entouré constamment de la même chose. Mais si tu t'ouvres comme nous on fait, ou comme tu peux faire quand t'es maman à la maison, ou que tu peux faire quand tu discutes avec d'autres gens, ou quand tes enfants sont élevés à l'école, puis que tu fais l'école, en fait. C'est que tu viens justement questionner. Tu viens poser tes questions. Puis là, ça devient quelque chose qui est bon de poser des questions. Mais là, aujourd'hui, dans la société, c'est vu comme quelque chose de mal.
C'est ça, comme on disait tantôt. Puis tu dis, tu parles comme finalement ce que Cœur de Pirate nommait, c'était à dépeigner quelque chose de mal de ce que tu incarnais pour elle cette journée-là. Tu sais, elle n'était pas respectueuse. Elle a dit, je vous juge pas, mais c'est plein de jugements. Puis ce que j'entends, en fait, c'est à quel point c'est dangereux. Puis tu sais, elle dit, quelqu'un qui n'a pas un esprit critique pourrait tomber là-dedans. D'habitude, tu tombes soit dans la drogue ou dans une secte. Puis là, vous êtes vraiment des femmes qui avaient décidé d'aimer Jésus puis d'élever vos enfants. Je comprends pas le danger.
Moi, j'ai deux choses à dire. Là. Premièrement, je pense pas que nécessairement c'est avec du jugement parce que c'est pas comme la première personne qui aurait cette opinion-là. Là. Je pense qu'elle comprend juste sincèrement pas. Honnêtement, là, je pense qu'il y a du monde qui sont tellement convaincus de ce qu'ils croient qu'ils s'imaginent. Je suis sûre qu'elle le fait pas d'une façon malveillante, là, mais en se disant comme, ah, oh, tu sais, c'est dangereux, fait qu'il faut que publiquement on prenne position pour dire de faire attention. Je pense que c'était bienveillant, sûrement.
Le résultat est le même quand même.
Oui, mais je trouve ça juste triste qu'on soit rendu tellement avec des opinions fermées.
Oui.
Qu'elle n'est pas capable de nuancer un peu, tu sais, vraiment comme elle se ferme à ça. Puis moi, j'en ai un autre sujet par rapport à ce qu'on vient d'écouter. Elle disait comment c'était dangereux un peu. Ben, pas dangereux, mais en tout cas, la montée des réseaux sociaux, masculinistes, oui, des tradwives et tout. Puis, tu sais, je suis pas une influenceuse, là. J'ai comme 5000 abonnés sur TikTok, là. Mais en tout cas, mais je suis sur les réseaux sociaux. Puis quand j'entends ça, je trouve ça vraiment poche qu'il y a plusieurs personnes qui prennent position publique pour dire « Ah, ça peut être dangereux, ça devrait pas être public.
Ouais. »
Les femmes chrétiennes, les femmes plus traditionnelles, les femmes qui décident d'être à la maison, les femmes qui veulent faire l'école à la maison et tout, parce que moi, quand on regarde mon vidéo, là, on peut regarder mon vidéo de moi qui parle de ma journée avec mes enfants ou de ma chrétienté ou peu importe. Puis après ça, l'autre vidéo d'après, ça peut être quelqu'un qui te montre ses cicatrices de...
Mastectomie.
Sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde, puis ils devraient pas, même de mon côté, là, je pense pas que sur les réseaux sociaux, nécessairement, on devrait dire, oh, les réseaux sociaux devraient juste appartenir à une idéologie, mais non. Je comprends juste pas pourquoi il y a comme une genre de jugement ou une guerre à, OK, il y a juste cette idéologie-là qui peut être mal sur les réseaux sociaux parce que ça peut brainwash le monde, c'est mais ça. Quand ils regardent les autres idéologies qui sont plus l'affirmation de genre...
transition, là, les bloqueurs d'hormones.
Peu importe, mais ils voient pas ça comme des vidéos qui peuvent brainwash.
Non, ça sauve des vies.
C'est ça. Fait que c'est plus ça. C'est pourquoi est-ce qu'on peut pas être dans le milieu et faire « OK, il y a les deux sur les réseaux sociaux, puis les deux ont le droit d'exister publiquement, ouais. mais que la personne la plus dangereuse, c'est elle qui décide d'être avec ses enfants puis d'aimer son mari puis de cuisiner. »
C'est ça, en fait, qui me pose problème aussi. Parce que je me dis, vraiment, il y a plein de comptes de jeunes de 14, 15 ans qui on les suit dans leur transition de genre ou... qui, pour moi, cette idéologie-là est beaucoup plus dommageable. On peut déjà mesurer des pays qui ont été très, très loin, comme le Royaume-Uni ou les pays, je ne suis plus sûre si c'est la Suède, la Finlande, j'ai mélangé toutes, mais qui, eux, avaient été très, très loin puis sont en train de revenir parce qu'il y a plein de détransitionneurs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait, moi, dans le fond, j'étais juste une butch puis j'aurais finalement fini lesbienne. Mais là, parce que j'étais un petit peu un garçon manqué puis je jouais plus avec les gars, ils m'ont mis dans la tête que j'étais pas née dans le bon corps, puis ils m'ont fait transitionner, puis maintenant, je regrette ma transition. On entend ces histoires-là sans arrêt. Alors, pour moi, cette idéologie-là est infiniment plus dangereuse pour nos enfants que des femmes qui décident de rester à la maison puis d'élever leurs enfants sereinement. Tu sais, après, on va y revenir aussi parce que c'est quelque chose qui a été dit en entrevue, mais on a fini par, plus tard, à la fin, là, Fanny a dit que le danger, c'est d'être avec un homme qui n'est pas bienveillant et qui n'est pas gentil. Je vous annonce, tout le monde, que si vous êtes avec un homme pas gentil, votre vie, ça va être de la merde. C'est ça, la vie de couple. T'sais, si t'es avec un gars qui est toxique, tu vas avoir une relation toxique, peu importe que je crois ou non en Jésus.
Ce que je trouvais drôle, c'est que la madame, la plus âgée qui était là,
Michelle Ouimet,
Tout son speech était à propos de l'abus qu'elle a vécu, puis de sa vie de misère, mais pourtant, c'est une femme qui comprend pas pourquoi on vit dans une autre planète.
Des extraterrestres.
Fait que c'est plus ça, c'est elle parlait en tant qu'une femme très, très athée de tout ce qu'elle a vécu, mais par exemple, faut faire attention parce que vivre comme eux peut automatiquement te mettre dans une position où t'es plus à risque de vivre ça.
Oui, puis elle a d'ailleurs dit dans son extrait, on peut l'écouter, Michelle, parce qu'elle aussi, c'était assez extraordinaire ce qu'elle avait à dire.
Deux choses qui, la foi et je suis athée, et ce rapport-là avec l'homme, qui est un rapport dans lequel vous êtes heureuse et épanouie, pour moi, c'est comme du chinois, ce sera impossible. Moi, je veux dire, à l'âge que j'ai, je me suis battue pour que les femmes aient des droits, le droit à l'avortement, le droit
à l'éducation,
le droit du travail, le droit à l'indépendance financière et tout ça. Alors, pour moi, j'ai lu les articles de ma collègue Fanny, que j'ai trouvé absolument fascinant, mais pour moi, c'est un univers qui est incompatible avec mes valeurs, que je respecte. Là.
Mais est-ce que vous saviez que le droit de vote, c'est des féministes, ce n'est pas des féministes, mais ce sont les chrétiennes qui l'ont amené. Alors, avec l'idée que Dieu nous a donné une...
J'aurais laissé Karina le dire en personne, comme on l'a dans notre studio. Mais avant c'est vraiment bien que tu aies répondu ça. Ça paraissait que tu t'étais préparée pour amener justement que non, c'est pas on régresse pas. Parce que dans le fond, ce qu'elle sous-entendait, c'est que vous alliez amener un recul des droits des femmes. Ouais. C'est vraiment ça. T'sais, elle dit, moi, je me suis battue. Puis là, c'est comme si vous êtes en train de défaire ces batailles pour le droit à l'indépendance financière, ce qu'elle a nommé le droit à l'éducation. Comme là, vous êtes en train de nous faire reculer là-dessus. J'aimerais ça savoir, c'est ça, tu peux continuer ton point, c'est intéressant ce que tu as apporté.
Oui, fait qu'en fait, ce que je disais, c'est que ce n'est pas des féministes qui ont amené tous ces droits-là, c'est des femmes chrétiennes. Donc, ils sont en train d'essayer de marginaliser les femmes chrétiennes qui veulent rester à la maison en disant, voyons donc, c'est pas féministe. Alors que le but du mouvement pour les femmes féministes, c'est de donner le choix à la femme.
Exactement.
Puis les femmes, en fait, qui ont fait ça, c'était parce qu'ils ont dit, dans la Bible, ça dit que les femmes aussi ont une responsabilité morale. Mm-hmm. Donc, si on a une responsabilité morale, on est responsable de nos actions aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça vient pas enlever du tout le droit à l'éducation, ça vient pas enlever le droit...
à l'indépendance financière.
À l'indépendance financière, mais ça vient nous permettre d'avoir le choix. Mm-hmm. Puis moi, j'ai choisi d'être maman à la maison, mon mari m'a baquée.
Ouais.
Puis là, tout d'un coup, ça devient un problème.
Ouais, c'est ça qui est drôle, en fait, c'est parce que je vois vraiment pas en quoi c'est dans le fond, c'est ça, c'est ce que Kim Lizotte dit après, c'est tu sais, la liberté de choix, comme là, tu sais, c'est le combat des féministes, justement, fait que le choix, laissez-le à toutes les femmes, tu sais. Mm-hmm. Puis en fait, ça m'amène dans... on parlait des mouvements de société au début. Le problème avec ce mouvement-là, c'est qu'on réalise que la femme, quand elle s'est émancipée, quand elle s'est mise à travailler, c'est devenu vraiment considéré comme progressiste. Donc, c'est un progrès. Donc, si on retourne vers des valeurs qui sont plus traditionnelles, d'être une femme au foyer, de faire à manger, de s'occuper de sa famille, de son potager, toutes ces choses-là, ben là, c'est un retour en arrière, c'est une régression des droits des femmes. Puis moi, je trouve que c'est une incohérence totale. Puis en même temps, ça montre à quel point on a vraiment perdu le Nord si on n'est plus capable de donner de la valeur au rôle de mère dans notre société. Puis je pense que c'est ce qui a fait beaucoup réagir sur mes réseaux parce que j'ai parlé de votre passage, autant à la presse qu'à Tout le monde en parle. Je pense que ce qui fait réagir, il y a plein de femmes qui m'ont écrit « Mais moi, je fais l'école à la maison, puis je suis fière, puis je suis tellement fière de comment j'ai éduqué mes enfants, puis je suis fière de l'équipe que je fais avec mon mari. » Là, c'est comme si, malheureusement, on doit tout défaire, toutes les espèces d'amalgames qui se sont faites, où finalement, on ne reconnaît plus le rôle de la femme. C'est plus valorisé d'être une maman. Mm. C'est juste valorisé si tu as comme 8 enfants que tu as tout eu un à la suite de l'autre, parce que là, c'est une « superwoman ». Ou bien c'est valorisé si en plus elle est PDG d'une entreprise puis qu'elle s'est remise à travailler 2 mois après avoir accouché puis que, tu sais, elle conduit une Porsche puis, tu sais, ça, c'est une femme. Bien, moi, je vais le dire ouvertement, oui, je juge les femmes qui recommencent à travailler après comme 2 semaines. Je comprends pas. Je trouve que c'est un traumatisme que t'imposes à ton enfant. Mais, tu sais, on est dans le choix. Mais pourquoi ce choix-là, il serait bien puis comme le choix que vous faites, il l'est pas? Mm-hmm. Moi, je trouve ça vraiment triste, en fait, ce que ça dit de notre société. Je sais pas ce que vous pensez de ça.
Mais en fait, je trouve que l'idée du féministe, après, quand on va leur dire, par exemple, comme moi, mes choix que j'ai fait d'être maman à la maison par rapport à la garderie, puis le rythme de la vie et tout, eux, ils vont le voir, dans ce cas-là, c'est un problème sociétaire, et il faut changer la façon de la communauté et du travail autour pour venir aider la femme à aller au travail et à aller au travail et à ne pas avoir toutes ces tâches au foyer là de faire le ménage, de cuisiner, puis tout. Puis là, ils vont dire, ben le mari aussi, il faut qu'il pitchin. J'ai jamais dit que le mari faisait rien. J'ai pas parlé de l'implication de mon mari dans ma famille. Mm-hmm. Puis là, tu viens me dire encore qu'en fait, ce n'est pas un choix, qu'il faut que la communauté m'aide à ce que je puisse aller au travail.
C'est vrai qu'on entend
alors que beaucoup. Je veux pas aller au travail.
C'est pas ça que je veux.
C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Même Fanny, elle en a parlé, là, durant tout le monde en parle, du fait que c'est comme si nous, pour se protéger un peu dans notre monde, ben ce qu'on fait, c'est qu'on décide d'être à la maison parce que la vraie vie fait en sorte que c'est plus difficile.
Ça me fait peur.
C'est comme, ça exemple, aussi. Aller travailler, on va dire la vraie vie d'avoir 2 temps pleins puis de manquer de temps ou de avoir des enfants et de faire à manger. Tu sais, comme, peut-être que c'est ça la vraie vie, on va dire, de parents qui travaillent un temps plein puis qui ont des enfants. Alors que pour nous, tu sais, comme pour moi, avoir déjà vécu, travailler un temps plein en même temps que mon mari, ben, on n'y arrivait pas. Puis pour de vrai, je trouve que c'est pas... est-ce que je pense que le Québec devrait mieux s'accommoder aux femmes qui travaillent puis qui ont des enfants? Oui. T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de jobs qui finissent après la garderie, qui commencent avant la garderie.
Ouais.
Je sais qu'il y a beaucoup de jobs qui nécessitent qu'à ce que tu travailles la fin de semaine, puis il n'y a pas de garderie la fin de semaine. Il y a beaucoup, les gardiennes, t'sais, moi j'étais sur un site de gardiennage, là. Il y avait une fille de 11 ans qui chargeait genre 22$ de l'heure. Fait que gardiennage,
c'était pas ça dans mon temps!
Et après ça, la façon que la société est faite, c'est que c'est pas nécessairement facile d'avoir des enfants puis avoir une carrière. Fait que c'est sûr qu'il doit y avoir une amélioration de ce côté-là. Fait que c'est peut-être féministe de ma part de dire ça. Mais je pense pas que de dire que les femmes qui font ce choix-là, parce qu'on vit pas dans une société de même, puis il y en a même que même si on vivrait dans cette société-là, ils décideraient quand même de rester à la maison auprès de leurs enfants. Je pense pas que ça fait en sorte qu'on essaie de se mettre dans une petite bulle de protection
En comme fait, c'est amis, qu'on est dans une société qui met plus de valeur à la carrière puis au travail qu'aux enfants.
C'est ça.
Puis, en fait, je pense que qu'est-ce qui vient challenger un peu l'idée, c'est que, je dis pas que c'est juste les chrétiens qui ont cette idée-là, mais majoritairement, les chrétiens mettent beaucoup de valeur puis de bénédiction sur leurs enfants.
À la famille,
oui. Alors, nous, on se dit plus, ça a justement plus de valeur que je sois à la maison, pour moi, plutôt que j'aille m'investir de mon temps à mon travail, je décide d'investir de mon temps chez moi avec mes enfants.
Mais tu remets, en fait, vous remettez la famille au centre de votre vie. Tantôt, tu as dit quand on s'est engagé dans notre foi, on a choisi de se marier tout de suite après. Donc, c'est devenu très évident que vous vouliez fonder votre famille. Tu sais, ça commence avec le couple. Puis, tu sais, je pense que on vit dans une société où de plus en plus, on nous dit de ne pas faire d'enfants, la planète va imploser demain, qu'est-ce qui vous prend de faire... Vous faites peut-être dire, moi, je me le suis fait dire beaucoup, « Ah ouais, tu fais des enfants dans un monde qui va aussi mal, vous êtes courageux, mais tu sais, c'est un peu le sous-texte et vous êtes donc bien débile. » Ben non, moi, je pense pas. Tu sais, je pense pas que la planète va imploser. Je pense que chaque génération a ses défis, puis c'est sûr qu'il va y avoir des gros défis pour nos enfants, mais ils viennent aussi avec... Moi, je pense qu'ils ont choisi d'être là, puis ben, ils vont avoir la force de passer à travers les défis de leur génération, de leur époque. Mais tu sais, malheureusement, c'est très dévalorisé. Fait que là, c'est sûr qu'on va vous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire si ton mari te laisse demain? La question qu'on t'a posée. Vous n'êtes pas indépendante financièrement. Bien, premièrement, il y a plein de femmes qui, moi, si mon chum me quitte demain, même si je travaille, c'est clairement lui qui fait le plus gros revenu. Là, malgré tout, on va avoir cette situation-là. Il y a plein de gens qui vivent cette situation-là. C'est dur de vivre. Vous l'avez dit, la plupart n'osent pas faire le saut parce qu'ils ont peur de ne pas être capable de vivre avec un seul salaire. Mm-hmm. Donc, c'est pas une question d'être chrétien ou pas chrétien. C'est une question qu'on vit dans un monde où il y a une méga inflation. La vie coûte cher. Fait que, tu sais, je pense que c'est. Puis aussi, c'est qu'on valorise plus le couple. Fait que c'est comme la société de surconsommation. Du moment que ça va pas bien, on jette puis on recommence avec un nouveau. Le gazon est plus vert chez le voisin. Mais moi, je pense que ce qui est louable quand on remet entre sa foi au centre, c'est qu'on s'investit vraiment dans notre relation, on bâtit une famille, puis c'est pas forcément une option de quitter l'autre. En tout cas, j'imagine que s'il commence à te battre puis qu'il pète complètement les plombs, ben là, c'est une autre histoire. Mais si vous êtes dans une relation saine, ben vous bâtissez quelque chose, puis quand ça va pas bien, ben on l'adresse, puis on continue de construire ensemble, tu sais. On n'est plus dans une société qui met ces valeurs-là de l'avant. Fait que vous choquez. Vous voulez bâtir quelque chose pour le futur avec votre mari. C'est fou quand même que ça soit rendu choquant.
Oui, mais j'ai aussi l'impression qu'avec, tu sais, le féminisme, ça a amené aussi...
J'ai pas besoin d'un homme,
c'est ça? Oui, comme une frustration, j'ai pas besoin d'un homme. Puis nous, on vient dire, ben non, c'est complémentaire. On a fait des enfants ensemble, on va les élever ensemble, on va s'entraider. Puis moi, mon mari, j'ai pas envie qu'il reste à la maison, j'ai envie que ça soit moi.
Ouais, c'est
ça. Tu me dirais demain, hey, ben, en amour, moi aussi, je peux être papa à la maison, je serais comme non, non!
C'est moi!
Attends, c'est ma job, là! Ouais, je l'aime!
Mais ben justement, tu sais, ben, on va écouter le commentaire de Kim Zot parce que ça ouvre à un point qui est intéressant qu'elle a porté après.
Ben son constat,
Kim.
Ah!
T'as skippé Kim, tu l'avais toute préparée.
On va-tu pouvoir parler aussi un peu de la loi, ce qui nous protège?
Oui, c'est sûr. Je vais prendre une
note. Parce qu'on n'est pas... Je pense que ça serait bien que tu reviennes sur ce
que tu as fait en avec. Que les gens ont
comme beaucoup on est de pas, on n'est pas comme on se fait laisser puis on se retrouve itinérante sur le bord de la rue. Là.
Ouais. Je me suis fait critiquer pour avoir dit que je pouvais trouver une job si facilement que ça.
C'est la chose
ils n'ont pas
grosse
compris
critique.
L'idée derrière.
Bon. Ouais, tu sais, on se fait critiquer pour tout ce qu'on dit du moment qu'on est ça. À TV. Vas-y pour Kim Lizotte, là-dessus.
Oui, mais il y a aussi des femmes qui étaient chrétiennes aussi qui se sont opposées à ce que d'autres femmes votent. Il y a toujours deux courants. À chaque fois que les femmes essaient de se libérer, il y a comme des femmes aussi qui résistent puis qui sont plus. Je pense que ce qui dérange dans ce que Fanny a couvert, c'est des mouvements qui essaient d'imposer une seule façon de vivre. Moi, je suis pour la complémentarité dans un couple. Moi, j'ai eu un papa qui est resté à la maison parfois quand ma mère partait travailler sur la route. Puis c'est lui qui prenait soin de nous, qui faisait à manger, qui faisait le ménage. Puis je pense pas qu'il se sentait brimé dans sa masculinité parce qu'il prenait soin de nous puis qu'il était bien. Puis je pense que ma mère était bien parce qu'elle s'épanouissait. Alors, la complémentarité du couple, elle existe, mais je pense pas qu'elle est genrée. Je pense qu'elle peut exister comme on peut être complémentaire. Puis je pense que ce qui dérange dans le mouvement aussi, c'est qu'il est imposé comme s'il était applicable à tout le monde. Alors que dans le féminisme, dans les luttes féministes, il y a toujours eu la liberté de choix, qu'on soit à la maison, qu'on soit directrice d'entreprise, PDG, CEO.
Est-ce que tu veux répondre à ça? Ça te fait sourire?
Ben, arrête pas de dire que c'est imposé.
Ouais, c'est
alors
ça.
Alors que... on n'a jamais dit à personne ou qui que ce soit comme toi tu dois faire ça, puis c'est la seule façon de le faire.
Je sais pas où l'imposition, je la vois pas.
J'ai parlé d'équipe, j'ai parlé de complémentarité, puis là elle est venue avec son truc de non-genré. Mais j'ai jamais dit que s'occuper des enfants, c'était que moi là, mon mari il fait la vaisselle, il fait le ménage s'il a besoin, si j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit, mais j'ai parlé justement que c'est pas juste, là, il fait 50 heures semaine, que là, lui, il arrive du travail, puis j'ai dit, oh, mon amour, ton linge pour demain, pour ta job, il est pas lavé.
Ça me tentait pas aujourd'hui.
C'est ça.
Non, c'est normal, c'est ça. Finalement, c'est une équipe. C'est vos paramètres à vous. Ils sont clairs dans votre équipe, c'est ça, vos paramètres. Il y a d'autres équipes qui, eux, ils font comme coupe ouverte, puis qui sont des clubs échangistes, puis. Mais c'est ça, leurs paramètres, puis qui sont bien là-dedans. Moi, honnêtement, on s'en fout de ce que les autres font. Tu sais, c'est des choix individuels en fonction de nos tempéraments, de qui on est. Mais je trouvais ça intéressant, par contre, parce qu'elle a apporté un point avec lequel je suis d'accord, c'est que les rôles, selon moi, n'ont pas à être genrés. Elle parlait de son père qui était à la maison, puis tu sais, j'ai travaillé avec un gars que j'ai adoré, un être extraordinaire, qui, lui, sa femme, elle faisait 200 000 par année, peut-être plus que ça. Elle travaillait justement en Alberta, puis tu sais, elle travaillait pour les grosses pétrolières dans le temps que ça allait bien. Puis lui, il était papa à la maison, puis il était super heureux là-dedans, tu sais, mais je pense pas qu'il était dans une démarche chrétienne, mais est-ce que ce serait incompatible avec votre foi, si c'était ça? mettons, toi qui avais la grosse job, puis que finalement, c'est ton chum qui reste à la maison, ton mari?
Ben, pour quelqu'un d'autre, je pense pas que ça soit incompatible, mais je pense quand même que quand t'as un enfant puis que tu l'accouches, il y a un certain devoir que la mère a envers son enfant. L'enfant, techniquement, ne reconnaît pas qu'il est une seconde personne à part de sa mère avant 9 mois.
Mm-hmm.
9 mois d'être né.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, je pense que la mère a quand même une responsabilité, là, de devoir envers son enfant qu'elle a décidé elle-même de créer.
Ouais.
Mais je pense pas que le fait qu'à un certain moment, le papa, il décide d'être papa à la maison puis que c'est la maman qui décide d'y aller. Mon mari, quand j'ai accouché de ma deuxième, a pris 6 mois. De congé de paternité.
Mm.
C'est lui qui s'occupait du ménage, c'est lui qui changeait pas mal.
Vous étiez les deux tout. À la maison ou toi tu travaillais?
On était les deux à la maison.
Wow, okay.
Parce que, ben, vu dans le fond que je suis maman à la maison, il a pris le congé de parental, okay, là, c'est plus okay. long.
Ouais.
Fait qu'il a pu prendre 6 mois, puis il m'a full aidé avec notre fille.
Wow, ben, c'est aidé, génial de je veux dire, vivre ça.
Dans le sens qu'habituellement, c'est ma job. Là. Je considère que c'est ma job parce que c'est ce que je fais de mon temps.
Ouais. Mais c'est quand même... prenant. Là. C'est,
oui,
c'est le
temps
d'avoir le support de son chum.
Mais
c'est pas
le
job, on n'a pas fait l'enfant tout seul non plus.
Ouais. Il l'a tout fait, puis on n'a jamais considéré que parce que c'est un homme, il ne devrait pas le faire. Hein. C'était même pas dans notre tête.
Pour venir appuyer, dans le fond, moi, mon mari travaille, puis moi, je suis à la maison. Je ne me verrais pas dans une situation que moi, je travaille, puis que lui, à la maison. À part si c'est des situations comme de court terme, là. Mais là, le fait que je ne travaille pas, lui aussi, il va prendre le congé parental pour être à la maison avec moi, puis s'occuper probablement des plus vieux pendant que moi, je m'occupe. Puis mon mari, tu sais, c'est autant que, oui, on se complète, puis il y a des choses qui sont plus faciles pour les femmes, puis d'autres qui sont plus faciles pour les hommes, mais il est quand même capable de s'occuper de nos enfants, puis changer des couches, puis faire à manger si je suis pas là, puis faire le lavage et tout. Et on est une équipe.
C'est pas l'homme de Cro-Magnon, là.
Non, c'est ça, tu sais, il est un très bon père puis un très bon mari.
Mm.
Puis, mais comme elle a dit, il travaille, donc ça ne ferait pas de sens que moi, je passe la journée à avoir du fun à la maison, écouter des films, puis qu'il arrive, puis que je suis comme, oh, homme, va faire le ménage, va laver la salle de bain, oublie pas de donner le bain des enfants. On est une équipe quand il est là,
mais
moi, je vois la journée comme le plus de choses que je suis capable d'accomplir, le plus de temps de qualité que je suis capable de passer avec mon mari puis mes enfants.
Mm. Je comprends 100% vos choix. Je veux juste être sûre de bien comprendre c'est quoi la position de la chrétienté là-dessus.
Ben, je pense que majoritairement, ça se fait juste plus naturellement que ce soit la mère qui reste à la maison, un peu à cause du lien que j'ai parlé au départ de l'enfant puis l'allaitement.
Mais si c'était pas ça, est-ce qu'il y aurait un jugement ou est-ce que ce serait mal vu?
Je pense pas qu'il y aurait
mal écrit que
non, non,
travailler.
Ben, tu sais, bibliquement, en fait.
Oui, parce que...
Ah, quand tu parles de la Bible.
Je me semble que j'ai lu de quoi.
Bibliquement, en fait, c'est les hommes qui enseignaient aux enfants. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir l'implication dans la famille puis de se dire... L'école à la maison, c'était pas la responsabilité de la femme.
Mm.
Oui, on a gagné ce droit-là, tu sais, d'être instruite, puis tout. Donc maintenant, ça nous revient davantage. Mais dans le temps, c'était le mari qui était le plus instruit.
Mm-hmm.
Donc c'est le mari qui éduquait les enfants. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de voir que non, bibliquement, on n'est pas en train de dire que papa, s'il veut passer du temps avec ses enfants, tu sais, que c'est mal vu ou quoi que ce soit. Là.
Ouais, ouais, je comprends.
Moi, je pense que c'est mieux perso pour moi. Puis pour les femmes que je connais, là, parce qu'on a tout un penchant d'être à faire plus de choses que certains hommes, ils ont plus de difficultés. Être à la maison en tant que femme, c'est mieux pour notre famille, puis pour lui de travailler. Mais ceci dit, moi, j'encourage que si t'es pour avoir plusieurs enfants, puis que travailler deux, un 40 heures, c'est mieux que ce soit le père ou la mère qu'il y en ait un qui travaille pas un temps plein.
Ouais. Au moins pas un temps plein.
Je comprends qu'il y a certaines personnes qui sentent qu'ils doivent travailler ou que ça soit financièrement au même niveau. C'est ça. Mais que je trouve que ça serait déjà bien qu'il y en ait un des deux qui travaille moins.
Est-ce que ça te manque de t'accomplir dans un travail?
Non, parce que je m'accomplis dans plein d'autres choses.
Ouais.
Dans plein d'autres choses.
T'as pas juste ta portion de tarte maman qui est remplie.
Non, c'est ça. Je suis une femme, je suis un ami. Tu sais, là, j'ai mes réseaux sociaux qui me font quand même... Parce que ça vient sortir mon côté artistique un peu.
Mm-hmm.
Après ça, tu sais, j'aime l'art, je fais plein de choses.
Mm-hmm. Je comprends. Puis toi, Karina?
Je pense qu'une fois que t'es capable de trouver comme une bonne gestion pour ton foyer, parce qu'on s'entend au début, tu sais, c'est une bonne adaptation, là,
mm-hmm.
ça donne le temps de découvrir davantage qu'est-ce qu'on aime. Il y a tellement de mamans aujourd'hui qui disent « Moi, je me suis perdue dans la maternité.
Ouais. »
Alors qu'en fait, au début, t'as l'adaptation, mais après, t'as plus de temps. Tu sais, oui, OK, t'es beaucoup occupée, mais t'as du temps pour réfléchir, tu as du temps pour te dire c'est quoi que tu aimes le plus.
Encore, je réponds pas, j'ai du temps pour réfléchir.
Ben, je veux dire, je pense que tu as du temps pour réfléchir parce que tu as réussi à tout créer ça.
Mais mes enfants sont pas avec moi à temps plein. T'sais, si je les avais à temps plein, je vois pas comment j'y arriverais.
Mais je pense que je comprends. Je dis pas nécessairement que tu aurais l'entreprise que tu as aujourd'hui, peut-être pas la même ampleur ou la même dynamique, mais je pense que la partie de toi qui se questionne énormément, ben, tu aurais quand même pu trouver une façon de faire quelque chose avec ça.
Ouais,
comme
ouais.
par exemple, moi, la maternité, les accouchements, les grossesses, c'est ma passion. Ben, je suis doula une fois par mois, j'ai une maman.
C'est ça, là, on n'en a pas parlé, mais finalement, comment t'es devenue doula? Est-ce que c'est récent?
Ça fait 2 ans.
OK.
Fait qu'en fait, c'est à la naissance de ma première, je me suis dit, bon, ben, mon corps est fait pour accoucher, donc je vais juste aller à l'hôpital, je vais faire confiance. Mais je me suis pas rendu compte de tout le système médical qui ne croit pas qu'on est fait pour accoucher sans intervention médicale.
Ah, on est à la même place.
Donc, ça a été terriblement mal été. J'ai fini par césarienne d'urgence.
Oh non.
À moitié pour des raisons médicales, à moitié pour un peu rien, parce que si ça avait été géré différemment, tu sais, j'aurais pas eu besoin de la césarienne, mais avec tout ce qui est arrivé, mais là, c'est devenu nécessaire, tu sais, que j'aille à la césarienne. Donc, en sortant de la césarienne, un peu traumatisée les deux, on s'est dit qu'on voulait plus d'enfants.
Oh, wow, OK.
Puis, mais là, je suis tombée sur une femme sur les réseaux sociaux qui, elle parle de toute la grossesse puis l'accouchement avec Dieu, puis comment, en fait, Dieu, il nous a créés, puis que c'est pas censé être comme on le fait à l'hôpital, avec plein d'interventions et tout ça.
C'est qui, la madame?
C'est Pain Free Birth par Karen Welton, aux États-Unis.
Okay, on s'apparaît tantôt.
Puis vraiment, c'était super intéressant. Fait que j'ai dit à mon mari, OK, je pense que je suis prête à essayer un deuxième, puis on verra si ça marche ou si ça marche pas. Fait que j'ai pris son cours.
Puis, c'est un cours qu'elle donne.
Elle donne plein d'informations gratuitement, mais il y a des cours aussi que tu peux prendre.
OK.
Fait que j'ai pris son cours, puis j'ai appliqué tout avec ma fille, ma deuxième. Puis j'ai eu un accouchement.
Pendant ta grossesse.
J'ai pris son cours pendant ma grossesse, puis j'ai appliqué tout à l'accouchement.
À l'accouchement, mais t'as accouché sans césarienne le deuxième?
Ouais.
C'est possible?
Oui.
Ah! Déjà, on apprend des choses à bien du monde, je pense.
Ouais, mais il y a beaucoup, tu sais, c'est difficile, là, c'est une petite bataille, là, mais si t'es vraiment décidé, ça va bien, puis si t'es bien informé surtout.
Puis ça a bien été ton accouchement?
Ça a été merveilleux.
Wow!
Ah, c'était tellement un bel accouchement, j'étais l'histoire du plancher, personne n'en croyait ses oreilles.
Ah, pour vrai? Pourquoi?
Ben, oui, j'avais même pas mal. Fait que ça, déjà, je pense que ça a choqué vraiment beaucoup.
Oh, ça me choque.
Ouais, puis c'est choquant.
Après ça, mon bébé était déjà en train de sortir et je ne poussais pas.
Aïe, aïe.
Puis là, le médecin est arrivé, il a dit « Ah, commence à pousser! Venez vous ça ici! » Puis là, tout le monde a couru dans la pièce. Ça, c'était assez...
Qu'est-ce que t'étais couchée?
Assez cocasse. J'étais couchée sur le côté.
OK.
Parce que j'avais été debout tout le long, fait que j'étais comme un petit peu fatiguée, fait que je m'étais couchée à ce moment-là.
Donc, l'hôpital acceptait que tu travailles dans des positions différentes que
les pieds. J'ai pas pris la péridurale.
Bravo.
Donc, sinon, c'est un peu plus difficile de bouger, là, mais...
Oui, non, t'aurais pas pu être debout.
Ouais, c'est ça.
T'aurais pas senti tes jambes.
Puis
elle sort en combien de temps? C'est une petite fille, ta deuxième?
Oui, c'est une petite fille. En combien de temps?
Ça a été rapide, ou?
Ben, je suis arrivée à l'hôpital à 14h, puis à 18h, tout était fini.
Tabarouette.
Pour un accouchement après une césarienne, c'était quand même assez incroyable. Mmh.
Wow. Moi, j'ai accouché naturellement, mais j'ai crié, par exemple.
Ça fait mal. Ça fait mal en tissu.
Fait que je me suis dit, OK, tu sais, ça marche. Je me suis dit, ben, je vais prendre le cours de doula. Fait que j'ai pris le cours de doula, j'ai fait plein de formations à côté. Puis là, depuis ce temps-là, j'aide les mamans quand je peux.
Donc, pour ceux qui ne savent pas, une doula, est-ce qu'il y a une différence entre doula et sage-femme?
Oui.
Peux-tu expliquer c'est quoi?
Donc, une doula, c'est une accompagnante à la naissance. C'est plus le côté psychologique, préparation, mais aussi de l'aide naturelle. Fait que maintenant, on peut faire des points de pression. Moi, j'aime beaucoup faire des resserrements de hanches. On est là pour décharger aussi les infirmières si c'est à l'hôpital. Puis ta sage-femme n'est pas tout le temps dans la pièce avec toi. Mm-hmm. Donc, c'est une aide constante qui est là comme support.
Puis, est-ce que tu fais aussi en maison de naissance?
Oui, ça m'est arrivé aussi.
OK. Puis là, maintenant, t'en fais un accouchement par mois.
Ouais, en ce moment, j'en fais un par mois, puis c'est amplement suffisant.
C'est extraordinaire de pouvoir vivre ces moments-là.
Vraiment.
À ton rythme aussi, tu sais, tu t'es pas mis à temps plein parce que c'est des conditions pas évidentes. Faut que tu sois comme stand-by jour et nuit.
Oui.
On choisit pas quand est-ce qu'on accouche, à moins que ce soit une césarienne planifiée parce que le médecin part en vacances. Mais, ben, félicitations d'avoir suivi ton cœur là-dedans. Fait que, dans le fond, tu t'accomplis aussi là-dedans. T'es pas juste maman.
Oui, c'est pour ça aussi que je parle autant du proverbe 31. Là. Je l'ai dit comme je sais pas trop combien de fois, mais c'est parce que on peut tellement être plein de choses, Puis il y a tellement de mamans qui disent justement qu'ils se perdent dans la maternité, mais on peut utiliser ce moment-là comme pour rechercher puis découvrir. Puis comme moi, j'ai découvert que j'étais passionnée de tout ça, donc tu sais, je pourrais, j'ai juste décidé d'embarquer là-dedans puis de continuer à marcher là-dedans, mais ça aurait pu être autre chose. Mm-hmm. Puis de créer quelque chose de ce que t'aimes réellement au final.
C'est la base de à quoi ça sert de vivre. Si on n'est pas... Mm-hmm. On a mis le proverbe 31. Merci, Jimmy.
Mais est-ce que je peux juste, à cause que tu te dis ça va exprès, juste maman, ça doit être une joke, mais pour de vrai, il y a vraiment du monde qui
pas juste dans le sens réducteur, dans le
non,
sens
mais c'est ça.
Ça à temps plein.
Oui, c'est mm-hmm. ça, mais pour juste pour prendre le mot, il y a vraiment du monde qui vont faire, exemple en écoutant moi puis Karina, qui va oh, ok, tu sais, Karina est pas juste maman, uh-huh, elle est uh-huh. doula, puis moi ils vont faire comme est-ce que je suis même pas une influenceuse, là. Genre, je pense que le monde réalise pas que je suis pas payée, là. Ouais. Mais ils ont dit, ah, mais sur les réseaux sociaux, fait que techniquement, elle a une carrière, fait qu'elle est pas juste
maman. Ah, je comprends maman. Ce que tu veux dire, ouais.
Mais même si présentement, on serait assis ici, puis qu'on aurait rien d'autre, autre que vraiment notre maternité, puis le fait qu'on a des enfants.
C'est bien en masse.
C'est ça, mm-hmm. parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui sont venus faire, ah, OK, mais eux sont pas justes.
Fait que là, c'est correct, parce que vous avez d'autres
types. Ouais, c'est ça, mais même comprends. Si on serait juste ça, comme ça... Je n'ai pas ça à cause de toi.
Non, c'est... mais c'est intéressant.
Parce que je veux juste vraiment penser. Le dire publiquement. Comme
je pense que ce terme-là signifie deux choses. C'est, ouais. Ça peut être utilisé vraiment de façon comme en réduisant un peu. Ah, c'est juste ça, mais aussi ouais. c'est comme juste ça parce que c'est ça à temps plein. Ouais. Mais est-ce qu'on écoutait la dernière extrait de Fanny? Parce qu'il y avait... il me semble qu'à la fin, j'avais un time code sur Fanny. Ouais. C'était elle qui avait le mot de la fin.
Cette idylle un peu de la famille où l'homme est un homme, la femme est une femme, puis chacun s'épanouit dans ses rôles distincts-là, ça fonctionne, mais ça fonctionne quand l'homme est gentil. Puis ça fonctionne quand l'homme est bienveillant. Puis le problème, c'est que c'est pas tous les hommes qui grandissent au sein de ces églises-là qui sont bienveillants. Puis elle, ce qui lui est arrivé à Tia Levine, c'est qu'elle a été mariée, puis elle a été prise dans un mariage avec un homme qui était violent, mmh. psychologiquement, physiquement, qui avait des enjeux de santé mentale.
Il a bien fait.
Puis elle a été emprisonnée, puis elle a dû partir. Puis elle appelait ça un patriarcat bienveillant. C'est okay.
Je trouve ça vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit parce que, tu sais, on a entendu des histoires. Quand j'étais petite, il y avait un film qui s'appelait « Jamais sans ma fille ». Puis c'était une femme qui a marié un homme musulman, je me rappelle plus dans quel pays, genre en Iran. Puis il est super cool au début, la vie est belle. Puis là, quand elle accouche, finalement, bon, ben, il fait ce que la charia lui dit de faire avec sa femme, puis il devient hyper misogyne, puis elle n'est plus capable de quitter parce qu'elle n'a pas de passeport, puis elle essaie de quitter. Pour ça, ça s'appelle « Jamais sans ma fille », elle essaie de quitter, c'est une histoire vraie d'ailleurs. Puis c'est certainement pas la seule par rapport à l'islam, ou tu sais, je veux dire, si vous aviez été musulmane, on vous aurait probablement accueilli à bras ouverts dans vos choix, ou même si vous étiez des blanches qui avaient décidé de vous convertir à l'islam avec un homme qui vient d'un autre pays, on serait en train d'acclamer ça parce qu'il faut être tellement accueillant, ouvert, bienveillant avec toutes les autres cultures. Mais quand c'est quelque chose qui appartient à notre passé, qu'on a jeté à la poubelle, puis que là, on ramène ça à table, là, soudainement, ça pose vraiment plus de problèmes. Pourtant, tu sais, je pense que si t'es mariée avec un homme misogyne, qui a des problèmes, des enjeux de santé mentale, qui croit ou non en Jésus, ben ça va aller mal ta vie. Tu sais, c'est ça qui va se passer. Fait que, tu sais, je vois pas c'est quoi le rapport avec le mouvement Tradwife. Tu sais, c'est comme si c'est, on parle plus de la même affaire. On parle finalement de la violence conjugale.
Je pense que l'idée, c'est qu'on est dépendante financièrement de notre mari. Ah, puis okay. là, ça amène... une peur que s'il arrive quoi que ce soit, mais on n'est plus rien. On n'a plus rien, pardon.
Veux-tu parler de la loi qui protège, justement?
Oui, mais dans le fond, il y a une influenceuse là, sur TikTok qui est une avocate. Puis je suis allée dans son live, puis j'ai posé des questions et tout. Puis elle a fait une vidéo par rapport à ça pour les Tradwives. Parce que je lui ai dit, ah, tu devrais faire comme un vidéo. Puis elle a fait une vidéo qui dit que dans le fond...
Est-ce qu'elle est québécoise?
Oui.
Ah oui, OK.
Oui. Je t'enverrai ça. C'est quoi si tu veux mettre.
Comment ça s'appelle? Est-ce que tu t'en souviens?
Non, mais je suis allée voir ma mère me l'a envoyé. Okay. Ma mère était comme, regarde Zoé. Puis j'étais comme, c'est moi qui lui ai dit, maman, de.
Ma mère, comme, regarde. T'es dans tout.
Oui. Puis en gros, le mariage, il nous protège de beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça serait plus dans un cas où que ton mari est comme travailleur autonome, ou qu'il n'y a pas comme un papier qui prouve l'argent qu'il gagne, que là, ça pourrait être des cas qui sont plus comme.
Compliqué.
Compliqué si l'homme est pas gentil à la fin. Et c'est aussi de faire en sorte qu'avant, tu puisses comme signer des papiers et tout. Fait que, tu sais, on cache pas le fait que oui, il y a des femmes qui peuvent vivre de l'abus. Je pense que ça, c'est dans tout.
Ouais.
Mais comme j'ai déjà dit, un vrai homme chrétien, parce que là, on parle dans un cas où que nous, on est chrétienne, là, un vrai homme chrétien qui a vraiment donné sa vie à Christ, puis qui est vraiment mort à soi-même, ne fera pas ça. Un vrai homme chrétien ne fera pas ça. Ceci dit, il y a des personnes qui s'identifient comme chrétiens qui le font, puis c'est triste, mais il y en a aussi partout, là, des mauvais hommes. Il y en a partout, puis moi...
Les tentations sont là aussi, oui. On est tous des humains.
Puis moi, ce qui me fâchait un peu dans les commentaires, c'est lire des commentaires comme « Ah, oh, ben oui, hein, check, elle a le choix qu'elle fait. Elle a décidé d'être une petite trad wife, là, puis d'être à la maison jusqu'à temps qu'il se trouve une petite pitoune, là, puis qu'il la laisse où. Oh, regarde, hein, voyons donc, pourquoi elle fait ce choix-là? » Elle se met tellement
dans une situation... Le choix d'être à la maison.
Ben, comme pourquoi est-ce qu'on fait le choix de se mettre dans une situation de vulnérabilité? Oh, puis okay. Moi, ce qui me frustrait, c'est pour un mouvement qui est féministe, qui dit que peu importe la femme, peu importe l'abus qu'elle subit, c'est jamais de sa faute. T'sais, c'est jamais de la faute de la femme, sa vie de l'abus. Mais maintenant, nous, des femmes chrétiennes, qu'on a fait le choix de se mettre dans une situation qui peut être plus...
À risque, vulnérable.
Pour certaines situations. Ben, nous... C'est pas, ah ben, tu sais, si ça vous arrive, ça va être triste, puis...
C'est comme la c'est comme de la trop courte de la fille qui se fait violer,
c'est
là.
C'est ça, ben voyons, pourquoi vous faites ce choix-là? Pourquoi ils font ça? Puis je suis comme, mais voyons donc, est-ce que tu me dirais ça si j'irais me promener à 1h du matin dans un ghetto puis je me ferais attaquer?
Ouais, t'avais juste à pas
ben,
être
c'est là. Ça, mais là, même maintenant que j'ai décidé de me marier avec un homme chrétien, de vivre une relation chrétienne, si un jour, puis j'ai même fait attention à ce que vous dites, parce que si un jour il y a des femmes chrétiennes qui lisent tes commentaires-là et puis qui vivent de l'abus, ils vont se dire, ben voyons, je vais pas sortir publiquement, je vais avoir l'air d'une petite nounoune qui a fait ce choix-là pour elle-même. Là. Mm. Fait que ça m'a vraiment répugnée.
Fait que t'avais peur que ça amène finalement des gens à s'auto-censurer ou à pas nommer?
Ben, pas nécessairement, parce que je pense pas c'est la majorité, ceci dit, de femmes chrétiennes qui sont avec des vrais hommes chrétiens qui vivent ça, mais je trouve que ça peut être, ambigu, c'est comme, faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on peut pas d'un côté dire, oh, les femmes sont jamais... c'est jamais de leur faute, ils sont victimes, mais d'un autre côté, mais les femmes chrétiennes, c'est de leur faute qu'ils ont fait ce choix-là, puis ils savaient dans quoi qu'ils s'embarquaient. J'aimerais ça qu'on reste en gang.
Il y a l'incohérence un petit peu.
Moi, c'est là-dedans. Ça.
Il y a beaucoup d'incohérence dans les idéologies dominantes. Est-ce qu'il y avait... Bon, on n'a pas parlé beaucoup des masculinistes. Est-ce que c'est un phénomène que vous connaissiez avant qu'on vous commence à vous dire que vos maris étaient des mâles alpha?
Pour être sincère, j'aurais besoin d'une petite définition.
Ouais, c'est vrai. Non, est-ce qu'un masculiniste... Ouais, dis-nous-le, puis on va te le dire.
Alors, le masculiniste est un misogyne, déjà, parce que je pense que c'est important de l'identifier comme tel. Moi, je le verrais pas comme ça. Je pense que c'est un homme qui se réapproprie sa masculinité, parce qu'on a beaucoup... castrer les hommes. On leur a dit qu'ils étaient tous des violeurs, on leur a dit qu'être blanc, c'était mal, on leur a dit qu'être plus fort, c'était mal, on leur a dit
qu'être... La galanterie, c'est mal.
Ouais, c'est ça, d'aborder une femme, d'avoir envie de la séduire, c'est mal. Fait que là, c'est comme ils savent plus sur quel pied danser, puis je peux vraiment les comprendre. Moi, ça fait vraiment longtemps que j'observe ce phénomène-là. Ça fait au moins 15 ans que je me dis, il y a de quoi qui marche pas, là. Ça va mal virer. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui sont virés de façon plus radicale, à se dire, ben écoute, ça va faire, je suis tannée d'être blâmée de tous les maux du monde. Fait qu'ils sont comme plus en mode lâcher lousse, puis peut-être qu'ils vont trop loin là-dedans, là, tu sais, les Andrew Tate de ce monde. Mais sinon, tu sais, je pense que, comme Julien Bournival, que j'ai reçu à mon podcast, qui a choisi, lui, d'être un gars qui est pourvoyeur, puis qui a une femme à la maison, puis lui, c'est un entrepreneur, puis il est à fond, là, il veut faire du cash dans la vie, puis bon, c'est ça. C'est beaucoup le concept du pourvoyeur. Après, il y en a qui vont plus dans la religion, mais c'est parce que ça vous amène à être comme la version féminine de ce mouvement-là qu'on a dépeint comme étant très dangereux. Fait que vous êtes maintenant comme des faces là, qu'on met sur des étiquettes, puis là, on met des petites boîtes, puis on vous range dans un placard. Est-ce que vous avez senti depuis votre passage dans la vie publique que ça vous entachait un peu? Est-ce qu'on vous en parle?
Que nos maris pourraient être genre des...
Ben, en fait, est-ce qu'on vous a garoché des étiquettes dans votre vie? T'sais, est-ce qu'on vous en parle si vous êtes avec vos amis? Hey, ouais, c'est vrai, t'es allé à tout le monde en parle. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous suit ou ça n'a rien changé finalement de faire parler de vous comme ça?
Ben, pour moi, le monde qui me connaisse, là, ça n'a rien changé parce qu'ils ont plus été surpris un peu du stéréotype ou de la façon que ça a été mis. Mm-hmm. Parce qu'ils me connaissent personnellement.
Puis ils te reconnaissaient pas dans l'article.
Ben, il y a des choses que oui, mais il y a aussi beaucoup de choses que non. C'est surtout les liens qu'ils comprenaient pas nécessairement.
Ouais, je comprends.
Fait Moi, ça n'a pas changé beaucoup. Je pense que ce qui a changé, c'est plus mon temps, là. C'est recevoir plein d'invitations pour aller à des podcasts, à la radio, etc. Un peu naviguer ça. Puis aussi, c'est comme la première fois que je peux lire des commentaires négatifs ou qu'il y a du monde qui me dit comme « Hey, tu sais, les femmes comme toi, ça devrait pas exister au Québec. » Oui. Mais j'ai eu des radicales des deux côtés qui m'ont écrit des choses. Là. Il y en a un qui était comme oh, il y en a qui était comme oh, tu devrais pas exister, puis il y en a d'autres qui étaient comme oh, tu devrais avoir des enfants jusqu'à temps que le Seigneur ferme ton utérus.
Ah, ok, c'est plus radical.
Puis, ta place, c'est vraiment dans la maison. Puis le monde qui vit ça de même, je suis comme amen si vous êtes bien. Il y a rien de. C'est beau de faire des enfants puis d'être bien c'est dans son couple.
Tu peux misogyne par contre.
Oui, mais c'est, fait que j'ai eu des commentaires des deux côtés. Ouais, fait que c'est plus naviguer ça là, que moi j'ai trouvé de nouveau dans mon cas.
Toi, Karina?
Ma voisine d'en face est venue me voir.
Ah, waouh! Pour vrai? Elle t'avait vu, à tout le monde en parle.
Oui, elle m'a vu, mais je pense que mes voisins de l'autre côté m'ont vu aussi, mais on n'a juste pas encore eu la chance de se parler.
OK, OK.
Mais elle, en fait, était super contente. Elle a beaucoup aimé l'ajout. Je sais plus c'est qui l'a dit, mais juste. Ah, ben, je pense que c'est justement Fanny, là, justement, juste de faire attention et tout pour les hommes. Mais ce que je trouve qui est vrai, mais qu'en même temps, ils ont juste entendu la partie où j'ai dit que le mari doit aussi penser à la pension de sa femme,
mm-hmm.
puis à qu'est-ce qui arrive à sa famille s'il décède, ou tu sais, des petites choses comme ça.
Mm-hmm.
Moi, mon mari, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ben, Karina, on va t'ouvrir un fonds de pension, puis je vais mettre autant d'argent dedans que j'en mets dans le mien, tu sais. »
Wow.
Fait que moi, je pense que c'est toutes des choses qu'un homme bienveillant, comme j'ai dit, va faire. Fait qu'elle était vraiment contente que ça soit parlé, justement, avec le rythme de vie un peu fou de deux parents qui travaillent, puis tout qu'est-ce qui arrive autour.
Ouais.
Sinon, mais je dirais qu'en ce moment, là, tout le monde m'en parle, comme dans mes amis et dans ma famille, mais sont plus contents que j'y aille été, contents de voir que, même les non-chrétiens, juste de voir que je suis capable de prendre un stand comme pour mes idées, puis de juste dire, ben écoute, c'est ça qu'on fait, puis peu importe ce que vous allez dire ou penser de moi, c'est ça qui est bon pour ma famille.
Ouais, c'est ça, toi, t'es solide dans tes souliers.
C'est ça.
C'est aussi... Bon, ce que vous incarnez pour moi, c'est comme je l'ai déjà dit, mais c'est deux choses. Il y a votre foi chrétienne, mais il y a aussi votre maternité à un jeune âge. C'est pas tout le monde qui devient maman à 17 ans. Plus ça va, plus moi, j'ai mes enfants, ma fille, je l'ai accouchée à 35, je suis tombée enceinte à 34. Fait que, tu sais, j'avais le double de ton âge quand même quand j'ai eu ma première fille. Fait que, tu sais, c'est... Puis j'aurais jamais été prête avant. Fait que, tu sais, vous avez une certaine maturité quand même d'avoir choisi de devenir maman à cet âge-là. C'est félicitations, là, vraiment. Moi, au contraire, je veux vous reconnaître pour les choix de vie que vous avez faits, même s'ils sont peut-être atypiques ou un peu plus en marge. C'est un mouvement qui a le droit d'exister dans notre société, puis je trouve ça important qu'on prenne le temps de le comprendre, ce qui nous a amené là aussi, tu sais. Mm-hmm. On a une société de surconsommation, on est épuisé, c'est une société de burn-out. Puis ben oui, c'est peut-être correct de se calmer, avoir un train de vie moins élevé, mais finalement, de prendre le temps de mettre l'énergie là où ça compte vraiment.
Mm-hmm. Ce que je trouve drôle aussi, parce qu'au Québec, c'est vrai que les gens ont souvent des enfants plus dans la trentaine,
mm-hmm.
mais si tu regardes comme le reste du Canada, pour avoir habité ailleurs dans le Canada, j'étais pas mal dans la norme. Ben là, j'ai 27 ans, je sais plus. Quand j'ai eu ma fille, là, peut-être 22 ou quelque chose comme ça. Là.
Début vingtaine là, pour avoir des enfants.
Début vingtaine, j'ai eu ma première, puis j'étais dans la norme. Tu sais, fait que c'est spécial pour moi de me dire, ben j'étais dans la norme, il y en a beaucoup.
Puis là, d'arriver Québec, ici,
je suis comme genre, OK, finalement, on me trouve assez spécial.
C'est drôle, hein? Je savais pas que c'était comme ça ailleurs au Canada.
Comme je marche juste pour aller, des fois, je vais juste prendre l'autobus pour aller chez une de mes amies, puis t'as la brigadière qui m'arrête, puis qui est comme... Elle me pose des questions, puis elle est comme un petit peu genre « Ah, mais tu sais, c'est bizarre, votre fille,
ouais?
Elle va pas à la garderie, ou tu sais... »
Ah ouais, OK, elle est fascinée. Hein?
Ouais, ou mettons juste, je vais à l'épicerie, puis il y a des gens qui me posent des questions, ou je pense qu'il y avait quelqu'un comme plus loin dans mon quartier qui était surpris que j'en veuille un troisième, puis...
Ah ouais.
Tu sais, fait qu'il y a souvent des commentaires comme ça.
Ouais, moi j'ai des commentaires de comme « C'est bien beau avoir des enfants, mais il faut pas oublier de s'en occuper, hein? » Puis je suis comme...
Fais-toi-en pas, s'il y a quelque chose, j'oublie pas, c'est bien ça.
Genre, je m'en occupe. À cause que, tu sais, ils s'imaginent là, qu'après deux, trois, c'est trop... quatre enfants, je peux pas m'imaginer là, comment
imagine
ça va faire.
Imagine nos grands-mères qui en ont eu 12.
Ouais, c'est ça. Mais pour revenir à niveau là, de tantôt, là, moi, je pense que j'ai senti à un moment donné où que après ça, là, que peut-être je pouvais ne pas être en sécurité. J'ai eu un peu peur d'être taguée. J'habite à Limoilou, je vais le dire publiquement, parce que là, tout le monde le sait.
Limoilou Beach.
Oui. Puis il y a beaucoup, tu sais... C'est quand même une place multiculturelle, avec beaucoup d'opinions différentes. C'est...
Mais c'est très libéral, peut-être, dans...
Oui, tu sais, c'est très ouvert. Puis okay. Je me suis dit, hey, OK, je vais-tu être taguée? Je vais-tu être taguée? Oui, parce qu'il y a eu du monde que j'ai connu qui ont parlé plus fort que moi de certaines choses, peut-être, puis ils m'ont dit, fais attention, il ne faut pas être taguée Antifa. Puis ça m'a quand même craint.
Mais Antifa, c'est pas extrême gauche?
Oui.
Mais comment tu pourrais être taguée Antifa?
Parce que je suis une personne qui pourrait peut-être essayer, comme on a lu certains commentaires, d'emmener les femmes vers de la droite extrémiste.
Ah, fait que l'Antifa te déteste, finalement, te voit comme une menace.
J'ai une petite crainte, je me suis dit, hey, je m'attendais pas à ce qu'on dise où que j'habite. Pas nécessairement où, mais tu sais,
ouais,
dans le coin. Puis j'ai demandé à ma voisine, qui est Antifa, de venir pour qu'on ait une conversation, puis elle m'a vraiment rassurée de pas m'inquiéter, parce qu'en fait, ils nous voient comme des victimes. Puis on n'a pas... Oui, fait quand on est agresseur,
ok, fait que vous êtes gentil. Aidé,
mais aussi, ce que j'ai trouvé le fun d'avoir une conversation avec elle, c'est qu'elle a elle-même, qui est la gauche plus radicale, on s'entend.
Mais très radicale, Antifa,
mais quand on parle, je trouve qu'elle est un peu plus proche que je pensais. De
plus centre.
Oui, ben non, mais en tout cas, plus proche.
moins loin. Elle est capable de te parler, c'est
même
pas
si spécialement. Même si on se parle, puis on se respecte et tout, mais même elle a dit qu'elle a trouvé ça pas le fun, la façon que... les femmes ont été mises sur les médias parce que le but, c'est comme de faire une division, c'est comme faire la droite contre la gauche, puis la gauche contre la droite, puis d'extrémiser comme les deux côtés. Fait que j'ai trouvé ça le fun que même elle a dit, c'est poche parce que ça va juste faire en sorte que ces femmes-là vont se sentir encore plus marginalisées.
En tout cas, pour une femme d'Antifa, être nuancée, en tout cas, chapeau. C'est pas tout. En tout cas, peut-être qu'elle va finir par se rendre compte qu'elle n'est pas si Antifa que ça.
Non, c'est ça, un genre, elle va être trop de la droite pour être dans leur gang.
Ah ouais, non, c'est sûr que...
Mais en tout cas, c'est bien qu'il y en ait...
Puis est-ce qu'elle a ton âge ou elle est plus...
Non, elle est plus vieille.
OK.
Mais ouais.
Ben, c'est...
En tout cas, le monde est un peu trop ouvert.
Ben déjà, d'être capable d'avoir des discussions quand on appartient à des idéologies complètement différentes. T'sais, pour moi, c'est le début d'une société qui va bien, là. T'sais, il faut faire des ponts, là.
Exactement. Puis tu sais, moi, ce que j'ai dit, c'est que je trouve ça poche parce qu'il y a peut-être du monde qui voudront plus faire de ponts par peur d'être comme extrémisé sur les réseaux sociaux, surtout par les médias. Puis on riait, puis on était comme, un jour, s'il y a une guerre, on peut-tu aller dans le milieu, puis se donner la main, puis montrer qu'on est encore capable de cohabiter, puis de s'aimer.
C'est parfait. Ben félicitations pour votre belle discussion en privé. Ça aurait été bien de vous filmer, la mettre sur Internet.
Oui.
Et puis, merci pour votre temps. C'était super de vous avoir avec moi. Puis, ben écoute, j'espère que les gens vont comprendre qu'il n'y a pas vraiment de menace dans ce que vous représentez. Félicitations pour ce que vous faites.
Merci.